Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, on y est, c'est l'ultime épisode de cette deuxième saison de Fin du Game, avant de reprendre en septembre avec une troisième saison qui s'annonce...
Incroyable.
Incroyable.
On a un programme, je vous dis que ça.
Qu'est-ce que nous dit le secteur R&D, Maxime? Qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'il y a des innovations qui arrivent pour cette troisième saison?
J'ai croisé Roxane tout à l'heure du marketing et elle nous a dit, bon les gars, c'est le moment de respecter les promesses. Il y a eu alors... des leaks, mais est-ce que c'était pas
On sait pas trop, tu sais, nous on se la joue un peu Ubisoft, hein. Des fois il y a des leaks, mais peut-être que c'est nous qui avions organisé ces leaks dès le départ, donc il paraît que ça y est, on va vous parler de Nier Automata.
C'est la pression, de toute façon voilà, tout le reste de l'entreprise nous met la pression pour qu'on le fasse, on n'a plus le choix.
De toute façon, le dernier c'est avec les actionnaires,
il était terrible, donc bon, on n'a plus le choix. Donc a priori, le fameux épisode de Nier Automata, on peut le dire, qui ouvrira je pense le bal de la troisième saison.
Comme ça on va envoyer du steak... Exactement. Dès le début. Après, on fera plus rien.
Non, franchement, on fera pas plus rien parce que là, on a prévu tout notre programme jusqu'à la fin de l'année, je crois.
Prochaine. Voilà, jusqu'au premier épisode de 2021.
Tout est bouclé. Planning,
ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a quand même une certaine influence sur la réalité grâce à nos prévisions, on a prévu que le monde existera encore jusqu'en début 2021. On sait pas dans quel état, mais si tout va bien, il y aura du fin du game.
Voilà. Très bien. On sera. Si le monde est encore là, fin du game le sera aussi. On peut le prédire comme ceci. Alors évidemment, on remercie nos patriotes qui nous soutiennent. Grosse nouvelle, bonne nouvelle, c'est que maintenant Patreon accepte les paiements en euros. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui voulaient pas forcément payer en dollars parce que ça leur fait des frais bancaires et on le comprend largement, c'est toujours embêtant de donner des sous à la banque pour rien. Donc maintenant, vous pouvez nous soutenir directement en euros, voilà, si vous pouviez pas le faire avant. C'est le bon moment en plus pour le faire, hein, voilà. On l'a annoncé, la troisième saison démarre, ça va être un peu foufou. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, nous permettre d'investir le temps et l'énergie pour préparer ces épisodes, surtout que là moi j'ai regardé, j'ai quelques gros jeux à faire d'ici là 2020, je crois qu'on a chacun des petits
trucs à caler, un peu énervé par moment, mais bon, on va y arriver de toute façon. C'est aussi l'intérêt en fait d'avoir ce Patreon là, c'est que nous on est serein pour se dire bon bah même si on anticipe d'épisodes dans 6 mois doit jouer à un jeu, là par exemple en début d'année j'avais joué à Horizon Zero Dawn dont on parlera dans la troisième saison, j'y ai joué plus de 6 ou 8 mois à l'avance, mais c'est grâce à vous qu'on peut se dire c'est pas grave si je passe 50 heures sur un jeu.
Ça nous permet d'anticiper vraiment sur le long terme comme ça et de pouvoir prévoir en plus un planning qui est cohérent où on alterne vraiment entre à la fois les gros projets, des choses un peu plus confidentielles. Donc voilà, se faire plaisir sur les épisodes et sur la ligne éditoriale de l'émission. Donc merci beaucoup, c'est vraiment grâce à vous. C'est aussi grâce à Third Edition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les soldes sont terminés. Donc au moment où vous entendrez cet épisode,
c'est
fini.
Trop tard.
Vous avez loupé le coche.
C'est aujourd'hui.
On enregistre. C'est simple. La dernière fois qu'on enregistrait, c'était le lancement. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve un mois plus tard et c'est la fin des soldes.
Mais peut-être qu'il y aura des bouquins à gagner encore une fois.
C'est vrai qu'il y a déjà eu des gagnants sur Twitter et sur Discord. Encore une fois, si vous voulez peut-être participer à un de ces concours et gagner un des livres qu'on vous proposera, eh bien suivez-nous sur Twitter @findugamejv. On les remercie également sur d'édition pour le bouquin Génération Mario, c'est l'histoire d'un plombier, c'est ça
le sous-titre
qui a été écrit je les ai sous les yeux par Alexis Bross et Lou Lassina Foubert. Maxime l'a lu pour préparer cet épisode. Maxime, c'est un peu notre archiviste il prépare comme ça, il va chercher les anecdotes pour nourrir l'émission. Là pendant cet épisode on va vraiment revenir sur les Mario 3D. On va vous expliquer un petit peu plus tard la structure qu'on a envisagée pour l'épisode, mais là dans ce livre il y a tous les Mario. Maxime, oui. 2D, Mario Party, Dr. Mario.
Il n'y a pas tout.
Et où est le tome 2 alors? Où est le tome 2?
Du coup, ils sont en train de le préparer avec tous les spin-offs. C'est un petit bouquin de 8700 pages.
C'est ça,
qui va parler des 900
grand Robert,
de
des 900 trucs de Mario. Donc là, c'est surtout les Super Mario, c'est ça, hein. Donc
ouais, 2D, ouais, 3D, voilà, tous les épisodes qui sont vraiment de la plateforme en fait avec Mario.
Oui, qui du coup, la lecture collait bien avec ce qu'on fait, puisque nous aussi, on va faire un petit étalage entre guillemets de différents Mario 3D. Et là, comme ils découvraient tous de manière assez transversale, c'était sympa à lire.
Et donc, bah, comme d'habitude, hein, voilà, si vous avez envie d'avoir des bonnes anecdotes sur le développement, parce que c'est vrai que le storytelling autour de la création des Mario, c'est devenu un truc tellement presque universel, tu sais, ça fait partie de ces petites histoires qu'on se raconte autour du feu en hiver. Mais bah, voilà, de les avoir dans un seul endroit, c'est toujours cool.
Donc voilà, on les remercie pour ce livre. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site. On a tout dit, belle intro, service marketing, tout le monde est content, ouais, je rentre dans les cases, dans les guidelines que Roxane m'a transmis, j'aime bien les personnages, qu'on les garde tout au long du lore.
Je suis sûr qu'en plus on a changé 4 fois de prénom pour
non, c'est ça la saison 3 en fait, c'est ça la saison 3, c'est plus de personnages fictifs.
Mais parce que ça tourne, tu vois, FDG Corp, c'est une petite...
Il y a beaucoup de turnover, ça crunch.
C'est un tremplin, tu vois, c'est un tremplin, Didier il est où? Il est chez Red Bull maintenant. Non, voilà, c'est comme ça.
Bon, et eh bien écoutez, je pense qu'après, on va mettre un peu de musique. Alors, je crois qu'on s'est pas du tout décidé sur ce qu'on
j'ai
va mettre.
J'ai une idée, mais.
Alors, voilà, Maxime a une idée, et on la découvrira en même temps que vous. C'est juste après ça, et on est reparti pour un nouvel épisode.
Alors, mon idée, c'est taper sur YouTube Medley Mario. Hein.
Ah, j'avais exactement la même idée.
Super idée. Épisode spécial dit structure spéciale parce que comme vous l'avez compris, donc on va aborder les Mario 3D, il y en a pas mal, donc on va pas pouvoir vraiment respecter notre matrice habituelle, hein, contexte, histoire, analyse, c'est pas forcément...
Alors
des
pourtant,
choses...
bon, l'histoire de Mario, on avait un épisode spécial de 4 heures
qui était prévu. En fait, il est déjà enregistré, hein, bien évidemment, mais on n'ose pas le sortir parce qu'on n'est pas sûr que vous soyez prêts à avoir toute notre passion pour les champignons et les princesses dans des châteaux. Non, mais donc on va revenir sur les Mario 3D. Ce qu'on vous propose de faire pendant cet épisode, c'est d'abord dans un premier temps de revenir sur les Mario 3D des anciennes générations, voir un petit peu ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils ont représenté pour Nintendo au moment de leur sortie. Et puis après, on fera quand même un focus sur Mario Odyssey parce que c'est le dernier en date qui est sorti. C'est aussi, je crois, un des plus vendus, si ce n'est le plus vendu déjà,
c'est
quasiment.
Le plus vendu des Mario 3D. Ouais.
Voilà, donc nous, comme on vise la popularité, hein, n'oubliez pas Roxane, le marketing, tout ça, on est là, on est là pour ça. Et puis surtout, bah voilà, c'est ce qu'est Mario actuellement. C'est vraiment ce que représente l'image de Mario 3D, donc on fera un focus dessus. Les Mario 3D, qui sont-ils? Il y a Mario 64 d'abord, ensuite on a Sunshine qui est sorti sur GameCube, il y a eu les deux Galaxies qui sont sortis sur Wii en 2007 et en 2010, et puis est-ce qu'on fera un petit détour par 3D World?
Vite fait.
On le mentionnera par sympathie, mais de toute façon, on expliquera peut-être pourquoi. C'est un épisode qui aujourd'hui est un peu moins retenu comme un des grands Mario 3D canoniques tels qu'on peut le voir avec
Galaxy. Je pense qu'on pourra dire la phrase Wii U et ça devrait suffire à
expliquer beaucoup de choses. Les gens comprendront pas mal. Mais avant d'être des jeux en 3D, les Mario c'était évidemment des jeux en 2D. Le premier épisode il sort en 85.
On a le
6.
Même âge. Hein. Ouais.
Tu as le même âge que
ouais,
Mario.
J'ai un mois de plus que Mario. Voilà,
parce qu'il était né avant avec Jumpman. ces conneries-là.
En tout cas, quand il s'appelait Mario, voilà, en 85, il est en septembre. Et donc là, en fait, en septembre, ça sera les 35 ans de Mario. Il y a d'ailleurs tout un tas de rumeurs autour d'annonces improbables ou peut-être probables, je sais pas, de différents remasters. Ça sera peut-être ça leur gros jeu de la fin d'année sur la Switch, une espèce de florilège, on ne sait pas, un menu best-of.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'influer justement là-dessus, à ce moment-là?
Moi, quand je le fais, normalement, on ne s'en rend pas compte. C'est le...
D'accord.
Ouais.
Donc non.
Tu sais, le signal, le contrat précoce.
On peut vous l'annoncer qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas les Mario Remaster.
A priori, il n'y aura pas.
Parce que bon, le Covid, on n'a pas pu trop le...
On l'a pas anticipé, ouais, celui-là. Mais grosse sortie quand même.
On avait fait un épisode Plague Tale quand même. Hein,
c'est vrai, c'est vrai. Oh merde.
Désolé. Mais il y a le parc d'attractions, sinon Nintendo, qui est toujours, je crois, en construction.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça.
En fait, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il y a quand même tout un faisceau d'informations qui sont en train de se lier. Il y a effectivement le Mario Land qui veulent créer une espèce de parc d'attractions Mario. Il y a la collaboration assez incroyable entre Mario et Lego, qui va aussi, je pense, occuper pas mal de familles aux alentours de Noël. Et voilà, on sent qu'en gros, ils veulent quand même marquer l'occasion de ces fameux 35 ans. Donc, si jamais ils ont envie de ressortir une collection, moi je vous invite à jouer à Mario Galaxy, les autres ne valent pas le coup.
Qu'est-ce que c'est que ça, Benoît? T'as cru on était dans une émission de jeux vidéo, on boit des bières, on dit on fait du troll. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Pardon.
Bon bah non. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des remasters sur Switch, hein, des anciens, ça c'est pas...
Bah
c'est
c'était
pas
une rumeur, mais bon...
On verra.
Bref, on va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Ce qui est important à retenir pour les premiers Mario 2D, c'est que, bon, pour la petite histoire, il y avait quand même la grande crise de 83-84 dans le jeu vidéo, où c'était vraiment la grosse hesse. En gros, le jeu vidéo n'arrivait plus à se renouveler. Il y a la fameuse anecdote des jeux E.T. enterrés au Mexique parce qu'il y avait trop de production. Et en gros, Nintendo arrive avec son Seal of Quality et il sauve le jeu vidéo.
Il sauve le monde, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Faut imaginer Bruce Willis sur son petit missile, là, et c'est pareil.
Avec
c'est
une casquette Mario.
Avec une casquette Mario, du coup, il a acheté la casquette sur le missile nucléaire. Et
c'était bon.
Et ça y est.
Pourquoi ce jeu, quand même, il est hyper important, malgré tout, le premier Super Mario Bros. C'est le premier jeu de plateforme qui va apporter le scrolling horizontal, qui deviendra un code... comment dire,
c'est encore aujourd'hui, ça reste des trucs universels. En fait, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde un jeu Mario, ils ont apporté un truc auquel on ne pense plus aujourd'hui, mais qui est devenu une référence, un standard, un truc qu'on voit tellement partout qu'on se rappelle pas que c'est souvent Nintendo qui a inventé ce truc-là, quoi. De toute façon, avec Mario, Super Mario Bros., ils ont définit tellement de choses, tu vois, sur au niveau de du level design, sur l'inertie des sauts, sur la construction des niveaux, le fait qu'il y ait des niveaux cachés, qu'on puisse sauter en dehors du niveau pour aller dans les fameux lost level, etc.
Il y avait déjà quand même une créativité incroyable, en fait, déjà avec ce premier jeu, déjà rien que sur l'univers. Alors, les fameuses anecdotes, voilà, les Goombas qu'on la forme pour te suggérer qu'il faut sauter dessus. Bon, ça, c'est
les tuyaux pour que tu comprennes comment aller à
qu'il
l'intérieur.
Faut descendre,
le champignon que tu peux prendre qui est gentil, entre guillemets, qui de coup rebondit vers toi et tu ne peux quasiment pas l'esquiver parce qu'il y a des blocs au-dessus de ta petite tête. Voilà, toutes ces petites
C'est vrai que ce niveau, ce level 1-1 de Mario Bros, c'est devenu à la fois, il y a la musique qui est restée. Mais aussi sa construction, en fait, en termes de level design, le côté, voilà, je vais devoir sauter pour pouvoir tuer l'ennemi et je vais rebondir en tapant l'espèce de brique qui va faire que je comprends que ça casse. Et... En fait, il y a énormément de codes qui sont déjà là, rien que dans ce premier niveau. C'est vrai que dès ce premier truc, c'était une masterclass, en fait, de game design sur le 2D. Et ça va durer quand même un certain temps parce que Mario 64, lui, sort en 97. Donc, pendant 10 ans, il y a des Mario 2D.
16 au Japon.
16 au Japon, oui, tout à fait. Pendant 10 ans, il y a des Mario qui vont sortir. Alors, il va y avoir les Super Mario Bros 1, 2, 3. Ouais. Il va y avoir les Super Mario Land. Il va y avoir les Super Mario World. Hein, ça grossit.
Ouais, et puis après, au fur et à mesure. Ça a explosé. Il y a eu tous les spin-offs avec les Dr. Mario, les machins. Ça, on va pas en parler parce que sinon, on y passerait à peu près 4 semaines. Mais en tout cas, la version plateforme a commencé à évoluer avec World, je trouve. Ouais. Puisque du coup, on avait ce côté où on changeait de niveau. Il y avait vraiment des thèmes au niveau de chaque région qu'on allait visiter.
Oui, c'est vrai que ça commençait un peu. Bon, c'était
Super Mario Bros 3, il y a déjà cette volonté de faire des univers thématiques, ouais.
D'accord.
Ça commence déjà un peu.
Et puis les petites choses qu'on avait notées qui étaient intéressantes sur là-dessus, c'était aussi que Super Mario World, ce qu'il apportait, c'est ce côté difficulté un peu modulable entre les niveaux. C'est-à-dire que il n'était plus question de faire tout le monde le même parcours, mais au sein de chaque niveau, il y avait des espèces de petits parcours optionnels. Alors par exemple, je sais que tu pouvais taper, tu sais, une petite boîte invisible et ça faisait apparaître une liane et t'allais avoir un défi un peu supplémentaire pour récupérer, je sais pas, toutes les pièces de machin et tout. Et du coup, chaque niveau niveaux avaient en fait deux niveaux, pas de lecture mais de jeu, pour pouvoir selon ton niveau en fait, tu pouvais selon ton niveau de jeu, ta capacité, ton skill on va dire entre guillemets, à traverser le truc, et les joueurs un peu plus confirmés, joueuses aussi, pouvaient se donner un challenge supplémentaire. Et il y avait même un peu d'exploration hein, il me semble hein, dans Super Mario World. Je me souviens d'un niveau dans le premier donjon de Bowser où tu sais il y a des portes qui t'emmènent à certains endroits et tout, il y a le château avec les boues aussi où il y a des illusions, des trucs comme ça.
Ouais, c'était vraiment la suite logique de ce qu'ils avaient déjà fait dans Super Mario Bros avec les fameux niveaux cachés, parce que c'est vrai que c'est, tu vois, de pouvoir casser l'écran en sautant par-dessus le niveau, c'est déjà une idée assez maligne de te dire qu'ils avaient déjà pensé à ça à ce moment-là. Et du coup, bah, ils ont continué avec cette idée-là en te laissant explorer. Ce qui est vraiment intéressant avec cette gestion du level design, c'est qu'en fonction de ta capacité à lire un niveau, tu vas voir en fait ou pas ces fameux niveaux cachés, et tu vas pouvoir en fait progresser. Plus tu vas jouer au jeu, plus tu vas te dire ah, mais peut-être que je peux sauter là, et on va voir ce que ça donne. Et tu te rends compte qu'il y a, comme tu dis, une liane avec les fameux niveaux dans les nuages, etc. etc.
Alors, j'ai oublié en détail, mais il y a peut-être même dans World une indication de ton pourcentage de complétion. Ça, je sais plus exactement.
Ah, c'est, oui, c'est possible. Ça, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais,
c'est peut-être le cas. Ouais. Là, je suis pas, j'avais pas de Super NES à l'époque, donc j'y jouais chez les voisins, tout simplement.
Moi, c'est des jeux que j'ai vraiment découvert bah, grâce à la Game Boy Advance, parce qu'ils sont tous ressortis oui, après vrai, sur, ouais. Sur Game Boy Advance ou même sur Game Boy Color. Hein, le Super Mario Bros, moi, je l'ai fait sur Game Boy Color. Donc, ouais, je me souviens. Ça commence à être des souvenirs un peu plus lointains. Et puis donc, 10 ans après la sortie de ce premier Super Mario Bros, qui marquera vraiment le jeu vidéo, la 2D et cette génération, hein. Après, tout le monde voulait faire du Mario. Enfin, ouais, le nombre de platformers qui sont nés après, c'est assez
mascottes, tu vois, tous les personnages, à chaque fois, quand Sony, ils arrivent dans la course, ils vont essayer de se créer leur propre mascotte. Sega a répondu avec Sonic. Enfin, voilà, cette idée d'avoir des mascottes, c'est devenu un truc vraiment ultra important dans les années 90-2000. Et l'idée de faire de la plateforme, ben, de toute façon, Mario, voilà, encore aujourd'hui, il y a tout un tas de jeux, les Celestes, les Meat Boy, etc. Ben, tu vois, Super Meat Boy, c'est une façon de reprendre Mario en version vénère.
Tout à fait. C'est vraiment un hommage direct au jeu.
Et c'est sans compter tous les jeux qui ont repris des éléments de plateforme pour les incorporer dans leur jeu. Même au sein de Nintendo, tu vois, Metroid, bah, t'as du platforming avec du scrolling, ou des jeux, je sais pas, sur NES, je sais pas, Tortue Ninja par exemple, bah, t'as du platforming.
Ouais, c'est ça, en fait. Avant, il y avait un avant et un après Mario, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, bah, c'est peut-être l'icône la plus connue, voilà, c'est le personnage de vidéo le plus connu, tout là-haut avec, tu vois, je sais pas moi, Lara Croft, avec aujourd'hui maintenant un peu Minecraft,
encore, je pense que c'est
des choses comme ça.
Le plus haut, hein,
Mario, il est dans sa ligue à lui tout seul.
Ouais, exactement. Et puis surtout que, bah, rebelote avec l'apparition de la 3D, puisque là, encore une fois, Nintendo, ils vont devoir... c'est peut-être le plus gros challenge qu'a connu l'histoire du jeu vidéo, tu vois, ce passage à la 3D. On en discutait là juste pendant la préparation, on se disait... c'est la dernière grande révolution finalement du jeu vidéo.
Ouais,
on
n'a
pas fait, il y a rien qui se promet à un tel changement de paradigme, parce que bon, il y a des gens qui vont se dire oui, mais la VR, mais en fait la VR, on est toujours dans un espace 3D, c'est juste que tu joues la caméra d'une manière un peu différente, mais la construction du level design, les choses que tu vas pouvoir faire, c'est toujours de la 3D. Donc moi j'ai du mal à, ça m'émerveille un petit peu qu'il y ait eu ce changement de paradigme à ce moment-là, et Nintendo va réussir vraiment avec brio avec Mario 64.
Pour moi, en gros, il y a eu l'apparition de la 3D qui était un nouvel Eldorado à lui seul. Il y a eu l'arrivée d'Internet qui a changé également les choses. Et depuis, bah, pour l'instant, on n'a pas encore connu de nouveaux gros changements comme ça. Et c'est vrai que je sais pas pour le coup, désolé, voilà, je vous le révèle, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. J'ai aucune idée de ce qui se passera. Mais il faut bien se dire que dans les années 90, la 3D, alors même avec l'absence d'Internet, tout le monde en parlait. C'était vraiment le nouveau territoire à conquérir. C'était le truc à faire pour tout le monde, quoi.
Et en plus, c'est devenu un peu cette course aussi à la technologie. Avec combien de polygones est-ce que tu vas pouvoir afficher en même temps, combien de bits il y a dans la console.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a même commencé à shift de cette. Parce qu'on avait les vieilles générations avec la NES, la Super NES, tu vois, c'était 16, 32 bits, machin, 64 bits.
Oui, c'est ça qu'il y avait ça avant.
Il y avait encore cette idée-là, mais à partir du moment où Sony, ils entrent dans la course avec leur console PlayStation qui est capable d'afficher de la 3D, ben, c'est devenu, en fait, désormais, le nouvel argument. Hein. D'ailleurs, toutes les publicités PlayStation à l'époque, c'était la puissance de la PlayStation. Vous ne pourrez pas la supporter. Vous n'allez pas. Voilà, c'est trop tellement fort, c'est tellement incroyable, tous ces polygones de Toshinden. Ouais. Mais voilà, c'était la seule chose qui intéressait les gens.
Oui, la 3D pour la 3D, c'était déjà en fait vendeur en soi. Alors, je ne sais plus exactement quelle année c'est sorti, mais c'est à peu près au même moment. T'as Donkey Kong Country. Ouais. En fait, c'est de la 2D, c'est un peu de l'ISO, je crois, ou un peu du 3D. Les modèles sont
ce qu'on appelle de la 2,5D.
C'est ça. Mais alors que ça n'apporte Absolument rien, en fait, c'est que esthétique. Alors tu peux dire qu'esthétiquement, éventuellement, hein, ça a peut-être son petit charme, son petit quelque chose, mais en fait, c'est juste, on le fait parce qu'on peut le faire, tu vois, il n'y a pas de...
Mais c'est là qu'on, pour en revenir à Nintendo, c'est vrai qu'eux, avec Mario 64, ils vont pas simplement être dans la 3D pour faire de la 3D, ils vont vraiment entamer une réflexion, comme ils ont dû certainement le faire avec le premier Super Mario Bros, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil, et comment ça peut servir notre façon de faire du jeu vidéo. Et ils vont passer déjà un an à prototyper comment manipuler Mario en 3D, sachant que la réflexion commençait déjà à la fin de la Super NES, hein, et comment prototyper ça. D'ailleurs, au début, je crois qu'ils ont pensé à faire une espèce de vue un peu isométrique avant de passer vraiment à la caméra qu'on connaît aujourd'hui sur le jeu, et voilà, un an à travailler sur les mouvements de Mario, les sauts, tous ces trucs, et qui d'ailleurs vont vachement se développer par rapport à la formule 2D. T'as l'espèce de triple saut, le fait de se mettre en boule, enfin, il y a plein de choses
longueur,
qui vont... La roue que tu peux faire...
Énormément de palettes de mouvements qui sont expliquées et qui sont du coup illustrées dans tout un tas de niveaux pour que tu apprennes à maîtriser tout ça. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça participe à tout un effort de design qui va au-delà du jeu. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils voulaient faire de la 3D, donc ils ont pensé la console pour qu'elle puisse afficher de la 3D, et ils ont pensé surtout leur manette, puisque du coup l'arrivée de la manette Trident, c'était aussi l'idée de dire comment on va réussir à contrôler ces personnages dans un truc en 3 dimensions.
Et ce passage en 3D, ouais, c'est l'arrivée des joysticks sur les manettes aussi, parce qu'on a regardé la PlayStation 1, c'est 94 qui n'avait pas de joystick dessus. C'est arrivé en 96 justement avec les jeux qui ont commencé à arriver un petit peu en 3D.
Ouais, et en fait il y avait la manette sur la PlayStation où tu avais le bouton analogue où tu pouvais cliquer dessus quand les jeux le prenaient. C'était
oui, je me souviens.
Et la 64 est arrivée un peu plus tard que la PlayStation, et elle, en fait, elle avait du coup ce fameux trident avec un stick analogique en plein milieu qui était intégré. Donc dès le début, ce que j'essaye de vous dire, c'est à quel point la façon dont on va penser sa console, on y pense moins aujourd'hui parce qu'on pense beaucoup en termes de teraflops, de machin. Maintenant que les formes de manettes sont à peu près fixées, on va dire, dans le marbre, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Chaque console avait vraiment une recherche de R&D, d'ergonomie qui était vraiment poussée, et Nintendo, ils sont arrivés avec cette idée qui peut paraître saugrenue, mais qui était vraiment, pour le coup, assez révolutionnaire à l'époque.
Il faut rappeler quand même ce que c'est concrètement que l'analogie, c'est-à-dire que la différence d'un stick analogique avec une croix directionnelle, c'est qu'un stick analogique, l'inclinaison que vous mettez sur le stick va varier, va donner une valeur différente en fait de déplacement. Donc si vous appuyez un petit peu sur le stick, Mario va se déplacer doucement, et si on va jusqu'au bout, il va aller plus vite, il y a les 8 directions, et ça, en fait, ça crée une subtilité dans la manipulation du personnage qui est fondamentale avec le game feel vraiment qu'on va avoir avec Mario, notamment dans l'inertie du personnage quand tu sautes, le fait de pouvoir un peu contrôler tes sauts, de contrôler aussi ta vitesse, parce que si Mario est à pleine vitesse, il saute beaucoup plus loin que si tu démarres un saut sans bouger ou en te déplacement doucement. Donc forcément, ça rajoute en fait tout un ce qu'on appelle de la profondeur, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une nuance dans les possibilités d'interaction avec rien qu'avec ce saut et ce déplacement, et c'est ça qui va donner ce feeling très particulier qui aujourd'hui encore, hein, si vous n'avez pas un périphérique analogique, comme par exemple un clavier de PC, on peut pas reproduire des mécaniques comme ça, on peut pas reproduire cette notion, ou alors il faut rajouter un bouton différent
t'avais un bouton de course, un bouton de sprint, éventuellement un bouton que tu devais maintenir pour marcher, pour empêcher ton personnage d'avancer, alors qu'avec l'analogie, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais il y a 25 ans, quand c'était la nouveauté, c'était incroyable de se dire que si tu pousses le stick pas très fort, Mario, il marche, voire il se met à marcher vraiment tout lentement, comme s'il avait peur, et ça apporte, comme tu l'as dit, toute une nouvelle palette de mouvements possibles. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux marcher au bord d'un précipice,
t'es pas
obligé d'avoir une animation, tu peux vraiment contrôler tes mouvements avec une précision qui était inégalée jusqu'à présent, et donc il va falloir en fait apprendre aux gens à faire tout ça, parce que nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu naturel, mais donner la manette analogique, une manette de PS4 à n'importe qui n'a jamais joué au jeu vidéo, et faites-les jouer à n'importe quel jeu en 3D avec la gestion de la caméra, vous allez voir qu'ils ont énormément de mal. Il y a toute une phase d'apprentissage dans la manipulation de ce genre de truc qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on a acquis par la force des choses, et justement, l'un des objectifs de ce Mario, c'était d'évangéliser les gens à ce truc-là, et de nous apprendre à gérer tout ça.
C'est l'autre, du coup, gros challenge, puisque le premier challenge, on est passé dessus, c'est tout ce qui est les contrôles, hein, les mouvements dans un environnement 3D, ils ont décidé d'en donner beaucoup à Mario et de le rendre vraiment agréable à contrôler. Et du coup, le deuxième challenge, c'est évidemment la caméra. Comment est-ce que tu filmes tous ces contrôles et tous ces déplacements. Et Mario 64 est très connu justement pour avoir complètement réussi ce challenge. Et tu parlais d'évangélisation, et justement au début t'as un tuto en fait caméra, parce que bon, on est un petit peu au début, hein, et du coup t'as les fameux frères Lakitu, donc le nuage et l'espèce de truc dessus qui a sa petite caméra sur, ouais, sur sa perche, et on peut contrôler légèrement la caméra, on peut un peu la faire tourner mais de façon très lente autour de nous, on peut la recentrer sur la vue de Mario, mais globalement la caméra elle est indépendante et va essayer de se placer un petit peu en fonction des perspectives.
D'ailleurs on lisait la notice qu'on a pu ouais, télécharger, et toi tu l'avais remarqué, ils te disent vous êtes un cinéaste, ou c'est toi Benoît qui avait lu, vous êtes un cinéaste aussi, vous n'êtes plus seulement joueur, parce que oui, de manière très Nintendo-esque on va dire, ils avaient incarné la caméra à travers ouais, la Kitu, et voilà, encore une fois ça change notre rapport ça change notre rapport à la manipulation du personnage, parce qu'avant c'était des caméras fixes, et puis il y avait les contrôles tank surtout, et qui étaient en fait par rapport à la fois les caméras fixes et où regardait le personnage, alors que là c'est plus du tout le cas en
ouais,
fait.
On pensait à Tomb Raider où en fait Lara ouais, Croft elle marchait, et quand tu devais tourner tu devais t'arrêter, changer de direction,
pivoter
comme un tank.
Et après
tu pouvais tourner en courant, mais c'était une galère sans nom, et la caméra ne suivait pas, c'est à dire qu'ils ont, eu ce système de lock qui est apparu pour que tu suives les monstres, mais bien souvent au Tomb Raider c'était une lutte contre la caméra,
le jeu
plus
c'était d'arriver
chose,
à ouais, se démerder avec la
et,
caméra
et on l'a vu avec tout un tas d'autres jeux, on a déjà parlé de Resident Evil, mais justement le fait de faire le choix de la caméra dans la conception d'un jeu, c'est pour ça qu'on parle de ces fameux 3C, caractère, contrôle, caméra, c'est fondamental, c'est vraiment ça qui va définir ce jeu. Et là où Mario 64 encore aujourd'hui c'est souvent cité comme un très bon exemple, c'est que le jeu démarre avec une caméra qui tourne autour de Mario et Mario qui regarde la caméra. Le fait d'avoir donné une identité à ce petit caméraman te permet de comprendre qu'il a un peu son identité propre, que tu vas pouvoir un peu le guider, mais qu'il fait un peu ce qu'il veut.
Il y a une dynamique, tu vois, ouais, tu te dis en fait il y a deux contrôles, je contrôle un peu deux choses différentes en même temps,
c'est ça.
Et ça permet d'inculquer
C'est que ça, parce que comme la caméra elle est pas non plus parfaite, tu sais que en tant que joueur, si jamais il y a un problème, tu peux un petit peu gérer le problème. On t'a donné un petit peu
quand tu fais un demi-tour, tu sais, avec les boutons C là, les petits boutons jaunes du trident, tu pouvais faire tourner d'un coup avec des angles, tu sais, tu faisais 90 degrés 90 degrés. Et donc c'est ça, de dire aux joueurs, aux joueuses, vous êtes les cinéastes, vous êtes les réalisateurs, bah ça les force à changer en fait leur vision du jeu vidéo en se disant c'est moi qui contrôle ce que je vois. Ça, aujourd'hui ça paraît, comme je vous dis, ça me fait rigoler parce que
oui,
tu dis on est 25 ans plus tard et c'est basique de chez basique, mais c'était tellement nouveau à l'époque qu'ils ont dû réfléchir à comment initier les gens à cette autre façon de faire. C'est-à-dire que quand on vous parle d'une nouvelle façon de jouer, machin bidule, là c'était vraiment
vrai,
c'est pour une fois c'était vraiment autre chose par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Et là où ils ont continué à être incroyables, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ces ouais, contrôles, une fois qu'ils ont fait ces caméras, ils ont changé vraiment leur approche en fait dans le design, dans le level design, hein, tout ouais, simplement. Puisque avant dans les Mario 3D, l'objectif c'était d'arriver au bout. Hein. Il y avait toujours
Mario
le petit drapeau. Oui, pardon, Mario 2D, c'était d'aller au bout. L'objectif c'était d'aller au fond du niveau,
d'un
tout à droite.
A,
il y avait
B,
le drapeau.
Et voilà, et voilà. De manière extrêmement linéaire puisqu'on
ouais,
était en 2D.
C'est ça. Et là, du coup, ils ont complètement changé de philosophie. C'est beaucoup plus bac à sable. On va quand même nous montrer l'objectif. Donc c'est les fameuses étoiles. Hein.
Ouais.
Il y en a une à la fois dans chaque niveau, mais en tout il y en aura je sais pas environ 8 je crois,
ouais c'est à peu près ça, ouais il y en a 8
oui,
10 par
niveau en général, ouais t'arrives ouais, dans un niveau t'as la principale et après tu peux, il ouais, y a des petits challenges optionnels un petit peu comme on l'avait dit avec Super Mario World, on va pouvoir moduler la difficulté soi-même
et
quoi.
Le niveau change un petit peu en fonction de l'étoile qui a chopé, mais on est beaucoup plus dans l'exploration, parce qu'on ne voit pas tout le monde, on ne sait pas forcément comment aller à l'étoile, il va falloir se balader, il va falloir parler à des PNJ pour comprendre un petit peu certaines subtilités du monde. Il y a aussi un truc tout bête, hein, mais le chronomètre qui disparaît, puisque dans les Mario 2D, alors peut-être pas tous, mais
en tout cas dans
les premiers,
sûr,
voilà, il y avait un timer, et si on arrivait au bout, bah, on mourrait,
ouais,
hein, c'était fini. Du coup, il y avait quand même cette injonction à se manier et aller au bout, et là, non, c'est bon, on est libre, on a tout le temps qu'on veut, où il y a une sauvegarde, enfin, ouais, il y a
et puis même,
tout ça qui est intégré.
Il y avait le hub central, hein, qui était donc
ouais,
le fameux château qui était là justement pour t'initier tout au début, et après tu pouvais même choisir l'ordre dans lequel, alors je crois que tu pouvais faire ça un petit peu dans les, parfois il y avait deux chemins il me semble dans les Super Mario World,
dans World
c'est
t'avais
possible,
un peu de choix, mais là on est,
mais
on
là
a
c'est vrai que
niveau,
tu peux vraiment, oui t'as un autre niveau, parce que même tu peux dire bah je vais faire deux missions entre guillemets dans ce monde là et puis je vais en faire trois ici et puis je reviendrai après
ouais,
et puis le nombre d'étoiles que tu débloquais, si tu pouvais en débloquer 8 dans un seul et passer au troisième en skippant un deuxième monde, enfin t'avais cette espèce de liberté d'approche. Et comme tu le disais, Maxime, effectivement, les mondes étaient vraiment construits de manière ouverte, en bac à sable, dans lesquels tu allais pouvoir te balader librement, et forcément, tu allais plus d'un point A à un point B, mais tu te baladais dans des zones qui, en général, étaient construites de manière un peu semi-concentrique, avec au milieu l'étoile, ou à un endroit un peu spécifique, un peu caché, qui allait te demander de faire un parcours spécifique, hein, forcément, à chaque fois. Hein, leur objectif, c'était de vous montrer tout ce qu'il y avait dans le niveau et comment c'était construit. Mais voilà, il y avait cette philosophie de le faire de manière ouverte. Et aujourd'hui, moi, même en y repensant, tu vois, c'est assez bluffant. Je trouve tout ce que ce jeu, il réussit à faire.
Tellement voilà, d'aspects de sa conception que ça en est vraiment impressionnant.
C'est une prouesse technique et qui, en plus, est complètement transformée aussi après par le game design, le level design. Enfin, c'est assez incroyable le niveau de réflexion qu'ils ont eu sur leur propre truc, qui était nouveau, quoi. Enfin, c'est
ouais, parce qu'en plus, t'as même des idées de dans la progression qui sont très malines. C'est-à-dire que, ok, il y a 100 étoiles dans le château, mais t'en as besoin que de 60 pour finir le jeu. Donc ça veut dire que t'en as 40 qui sont purement optionnels. Et donc ça te laisse vraiment une vraie liberté qu'on n'avait pas. Parce que c'est ça, en fait, l'argument. Peut-être, je sais pas si on l'avait dit, mais la 3D, en fait, pourquoi ça faisait rêver tout le monde? C'est parce que c'était la liberté. Bah, c'était d'un coup, on allait pouvoir se déplacer. Ouais. La liberté, ça reste encore aujourd'hui, vous voyez, le maître mot, les open world. Les MMO, les machins, c'est resté cette idée de liberté, c'est vraiment un truc fondamental dans la com autour du jeu vidéo. Et donc cette 3D là avec Mario 64, c'était tu es libre, tu vois les différents niveaux, il y a des portes qui pourront se débloquer que si tu as un certain nombre d'étoiles. Donc ils ont créé comme ça de l'attente auprès des joueurs, tu vois, tu te dis bon bah un jour j'irai là-bas, un jour je pourrai faire ce truc, etc. Donc ils ont vraiment créé tout un univers, comme tu dis, là on est vraiment dans une approche plus bac à sable où c'est toi qui vas choisir ton activité, c'est toi qui vas choisir ce que tu veux faire, tu as l'objectif, tu dois sauver la princesse comme d'habitude, mais comment tu vas le faire, bah c'est toi qui choisis. Et ça, bah, c'était tellement agréable, parce que quand tu jouais au jeu, tu disais bon bah qu'est-ce que je fais, bah je vais aller visiter ce niveau, ah tiens il y a ce niveau là, en
on
plus
on te remettait une décision entre les mains qui est aujourd'hui quelque chose qu'on recherche toujours dans le jeu vidéo. Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est les même sur les micro détails, et ça c'est vraiment le seal of quality de Nintendo, ils sont même allés dans l'affection de se dire bah en 3D ça allait toujours être plus difficile de sauter sur les Goombas par exemple, parce que c'est toujours pas facile en fait, c'est toujours plus difficile qu'en 2D, et du coup ils ont donné un mouvement à Mario, un petit coup de pied pour pouvoir taper, parce que c'est plus facile en fait en 3D de gérer ce genre de mouvement. Et d'ailleurs, tout au long des épisodes 3D, il y aura chaque fois un mouvement spécial qui permettra de tuer les ennemis et qui n'est pas le saut sur la tête. Et ça, encore une fois, ça montre qu'ils ont anticipé des problématiques qu'il y aurait à faire du jeu vidéo en 3D. Et voilà, ils étaient vraiment dans le turfu, quoi.
Sans forcément dire qu'ils l'ont anticipé.
Ils avaient des pétesses, bien sûr.
Il y a toujours évidemment le pétesse, ça c'est un truc qu'on pourra redire.
Mais tu sais qu'il y a tellement de jeux 3D après qui sont sortis et qui n'ont pas réussi la moitié de ce que faisait Mario.
De toute façon, si le jeu est resté encore aussi fort et que Nintendo a toujours cette aura vraiment unique dans le paysage vidéoludique, c'est moi qui vais le dire,
saison 3.
C'est parce que justement, ils ont cette approche presque clinique, tu vois, du game design, où vraiment ils vont se dire bon, il faut qu'on réfléchisse à toutes les possibilités, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on vérifie bien notre périmètre d'action, c'est quoi nos contraintes, et ils vont essayer d'aller gratter dans tous les coins pour voir jusqu'où ils peuvent aller, et ben ça donne des résultats qui sont toujours assez bluffants, quoi.
C'est l'occasion de mentionner un petit peu Miyamoto, hein, qui a donc créé Mario, donc Donkey Kong avant sur arcade, les Mario, mais qui avait quitté un petit peu ce rôle de réalisateur après avoir fait du Zelda, du Mario, qui était donc producteur, donc là il allait gérer beaucoup plus de projets en même temps, mais les réalisateurs étaient chacun sur le jeu et allaient lui faire des retours, et lui allait solutionner des problèmes, apporter des directions à suivre, faire des retours. Mais il est revenu vraiment sur le devant de la scène avec Mario 64, il s'est dit non, là la 3D ça m'intéresse, parce qu'il avait bossé sur Star Fox.
C'est moi qui fais.
C'est ça, bah, ouais, c'est ça. Ouais, bah, il avait bossé sur Star Fox, sur NES, où il commençait à y avoir de la 3D dessus, il s'est dit non, là il y a quelque chose à faire. Il a donc repris vraiment son petit capi de réalisateur, et il confirme vraiment son entrée dans la légende. Et ce qu'il faut, voilà, j'avais oublié un petit peu où je voulais en venir, c'est qu'il a vraiment ce souci en fait de prêter attention aux joueurs. Il a vraiment un sens du détail apparemment qui est hyper fin. Ouais. Il a remarqué des petits trucs vraiment à la con et apporté des solutions qui même parfois vont gérer plusieurs problèmes
en
même temps,
ça va aider des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé avant.
C'est le génie créatif de Nintendo, c'est vraiment cette personne là alors encore une fois, on ne sous-estime pas l'apport de toutes les équipes et de tous les gens qui l'enrichissent, mais c'est clair que ce personnage a apporté beaucoup aux jeux vidéo en tant que tel, et son regard qu'il a, c'est le mec, c'est pas le papa du game design moderne, mais pas loin, tu vois.
Il a tellement fait, tu vois, c'est vraiment un personnage central aujourd'hui, c'est à dire que il est largement au-delà de l'âge de la retraite et il travaille toujours chez Nintendo, c'est-à-dire qu'il continue d'être là. C'est vraiment c'est un peu la clé de voûte de Nintendo. Tu vois, tu te dis bon bah le jour où il va disparaître, malheureusement, il va avoir passé toute sa vie à former comme ça des gens pour qu'ils puisse perdurer cette façon de créer des jeux,
sa façon
cette exigence des jeux à la Nintendo. Parce que même si vous aimez peut-être pas les jeux Nintendo parce que trop colorés, trop familial, je sais pas quoi, dès qu'on commence à regarder vraiment comment ils sont fabriqués, il y a vraiment un savoir-faire, hein, y a toujours la blague des petits artisans, mais il y a vraiment un savoir-faire du jeu chez Nintendo qu'on ne retrouve quasiment pas ailleurs, et c'est pour ça que il est toujours pertinent malgré son âge. Il arrive quand même à apporter des idées et à simplement avoir un regard avec toute son expérience sur ce qui se passe chez Nintendo.
En interne chez Nintendo, il y a une petite école un petit peu de game design auquel les salariés peuvent vraiment participer et apprendre un petit peu comment sont faits les jeux Mario pour développer une vision un petit peu plus transversale. Et Miyamoto aussi, il pousse à ce qu'il y ait un petit peu une philosophie un peu de design industriel. Je crois que lui, il vient de ce background-là où il y a vraiment cette relation entre la forme, la fonction, tu vois, une approche très concrète, entre guillemets, premier degré de ce que tu as. Et c'est pour ça qu'on dit que Nintendo, il met toujours le gameplay d'abord parce que ça va être sur ça qu'ils vont bosser, et ensuite tout ce qui va être univers et tout, ils vont le développer. Vous pouvez en apprendre un petit peu plus, hein, et donc il y a le bouquin de Cern où il y a aussi Oscar Lemaire sur Ludostream, qui a fait toute une série d'articles sur Miyamoto et toutes les contributions qu'il a faites, sa philosophie, sa façon de voir. Vous en avez à peu près pour 5 heures de lecture, faites-vous plaisir.
Et donc gros succès évidemment, 64, on avait dit c'était 12 millions de ventes, hein,
c'est ça.
Pour ce premier épisode 3D. La suite va être un petit peu plus compliquée, on va dire, avec Sunshine, parce que déjà, même si ça a bien marché sur 64, elle perdait déjà quand même un petit peu de Nintendo
terrain.
N'avait plus sa place avec la PlayStation qui était arrivée dans le game, et pour la suite, pour la GameCube, ça va être un peu plus compliqué, et on peut même se dire que avec Sunshine, ils vont être beaucoup plus dans la continuité en fait de ce qui a été fait sur 64. Déjà, la structure est vraiment très très similaire. Alors, elle est plus recentrée de manière thématique parce que là, on est vraiment au soleil, les vacances, c'est Mario. Alors, il y a quand même un semblant de scénario. Cette fois-ci, c'est pas seulement Mario. Ils sont en vacances et Mario se fait, usurper par le bébé de Bowser qui est en Mario bleu. Alors, les villageois ont des problèmes de vue, des choses comme ça, je ne sais pas. Ils disent, c'est Mario, il a une casquette. T'as un pinceau, un pinceau, c'est Mario, c'est sûr. Et du coup, tu dois prouver ton innocence en nettoyant toute la ville.
Mario, il y a une cinématique au début.
Oui, c'est c'est Naughty Dog maintenant.
Pas loin. C'est l'occasion de dire qu'on a qui arrive dans l'arène. Il y a Yoshiaki Koizumi qui avait déjà bossé sur Mario 64 et d'autres jeux avant, mais là qui est vraiment le réalisateur.
C'est lui qui sera réalisateur. Miyamoto va reprendre un peu de recul.
On aura l'occasion de reparler de lui parce qu'il va continuer d'être présent dans différents Mario, mais c'est un des élèves de Miyamoto. Et il aime bien les scénarios, il aime bien mettre un petit peu en scène. On aura l'occasion encore d'en reparler, mais ouais.
Et donc, du coup, le gros gimmick de Sunshine, en fait, c'est toute la gestion de l'eau. Là, encore une fois, ils vont exploiter... La GameCube, c'est vraiment la suite logique de la 64 en termes de puissance. Ce que ça va rajouter, c'est la manette qui est un peu plus fine, qui a un peu plus une forme avec l'apparition d'un deuxième stick. On commence à voir cette forme qui, aujourd'hui, est complètement acceptée.
On commence à arriver vers la norme, en fait,
la DualShock, en fait, va imposer le design des manettes et on va la retrouver un petit peu partout.
La GameCube, finalement, un design assez proche de ce que fait la Xbox, et qui, aujourd'hui, je pense, on peut le dire, probablement un des meilleurs pads. Le stick en haut à gauche, je pense que c'est encore la seule faiblesse de PlayStation, mais parce que c'est leur image de marque, donc ils veulent pas trop changer, mais c'est vrai que le stick en haut à gauche c'est...
Puis la manette GameCube, elle reprend quand même pas mal la Nintendo 64, vraiment en termes de certains mappings, tu vois les croix directionnelles jaunes qui étaient en haut à droite, elle passe en dessous, mais c'est t'as le petit joystick jaune, tu vois, t'as toujours les boutons A, B, X, Y, ils ont repris un petit peu. Il y a évidemment il y a plus ce trident étrange
Je l'aimais bien le trident de la 64, mais puis t'as des gâchettes donc analogiques,
c'est important
aussi pour la gestion du coup du flux d'eau qu'on va envoyer
pas tout le temps, mais
Nintendo va exploiter va créer son jeu pour mettre en avant la force de sa manette. Alors même si contrairement à Mario 64, il est vraiment sorti en même temps que la 64, d'ailleurs chez nous il est vraiment sorti le même jour que la 64,
même au Japon,
partout. Et Sunshine lui est sorti plus tard sur la GameCube, mais là encore une fois on mettait en avant ce que la manette pouvait faire. Et c'est vrai que cette gâchette analogique, en fait moi je m'en étais pas rendu compte parce que là je l'ai rejoué un peu en émulation et du coup j'avais pas une manette de GameCube. Et en fait c'est vrai que si t'appuyais un petit peu sur la gâchette sans aller jusqu'au bout, Mario pouvait continuer à se déplacer et à projeter de l'eau avec le fameux jet en français dans le texte. Et par contre, si tu appuyais, ensuite Mario se fixait au sol comme un Resident Evil 4 par exemple, et là tu dirigeais en fait avec le stick, tu pouvais viser à la manière d'un TPS pré après Gears of War, on
ouais,
va
c'est
dire.
Ça, on est quelques années avant Resident Evil 4, hein, donc ouais. C'est vrai qu'il y a encore de la marge à faire dans la gestion de la caméra, mais d'un coup, quand tu peux viser comme ça, en fait, tu peux créer des ennemis qui volent, tu vois, ça a l'air de rien, mais c'est une grosse nouveauté qui n'était pas vraiment possible dans un Mario 64, c'est-à-dire que les ennemis volants avaient tendance à être fixes ou à suivre une course, vraiment, vous voyez, haut en bas, droite à gauche, enfin, des patterns assez classiques. Là, d'un coup, tu peux tirer sur des ennemis, parce que Sunshine, c'est un peu ça, c'est que c'est un peu le TPS avant l'heure, on va dire, puisque du coup, tu te mets à tirer sur des trucs. Alors évidemment, on pourrait y voir du pré-Splatoon, du pré-machin, mais
oui,
quand ça
ouais.
sort, c'est en 2002, c'est quand même assez pas innovant parce qu'il y a déjà des jeux de tir, hein, on a tiré sur des trucs, mais pour un Mario c'est différent, c'est un petit peu la nouveauté quoi.
Même si on gardait quand même toujours, je le disais tout à l'heure, non seulement la structure, il y a quand même encore une fois un hub central qui est cette fois la place Delfino, et puis différents niveaux dans lesquels on va pouvoir aller chercher cette fois c'est des soleils, c'est plus des étoiles.
Ils sont à la plage.
Mais voilà, Mario a toujours sa... encore une fois, il enrichit sa palette de mouvements parce qu'il y a toutes celles qui étaient déjà présentes sur 64, et cette fois t'as la petite pompe à eau qui va te permettre plusieurs choses, donc de tirer effectivement, mais aussi de pouvoir un peu planer en utilisant la deuxième forme du jet de base, et puis après au fur et à mesure du jeu on pourra de temps en temps obtenir des pouvoirs supplémentaires, donc le truc qui te permet de courir à balles et de manière infinie sur l'eau, et puis l'espèce de fusée qui décolle comme ça, qui t'emmène vraiment vers les hauteurs. Et il y a plein de petites subtilités que là j'ai redécouvert en y jouant un petit peu, le fait que tu sais, tu peux tourner sur toi-même, faire un petit tourniquet, mettre de l'eau, et après tu peux te projeter en glissant dessus, et tu peux glisser comme ça sur l'eau pendant longtemps. T'as un feeling en fait ultra plaisant juste de Mario, et je trouve que là ça allait encore beaucoup plus loin que dans
l'idée c'était 64. Vraiment de faire un truc ultra ludique, parce que l'eau c'est un truc que tout le monde connaît, tout le monde comprend, tu vois, on a tous joué, tu prends l'été,
tu prends le truc feel good enfantin comme ça,
et je vois qu'il y a une petite
citation
que je te laisse évidemment l'honneur de lire. Les citations, c'est
alors déjà, bon, l'auteur c'est soit Usui ou Koizumi, c'était pas très clair en fonction de qui le disait, mais alors je vais prendre la voix de la citation. Ce que je voulais reproduire avec ce nouveau jeu était les sensations que nous avions enfin en train de jouer. Je voulais que les joueurs fassent des bêtises, comme arroser d'autres personnes ou jouer avec de la boue. Je voulais simuler le jeu de l'enfant. C'était la priorité.
Bravo, bravo. Magnifique. Merci. Très belle voix. Merci Max.
Très belle voix de la citation. Il faut lui trouver un nom maintenant.
Tiré du bouquin sort d'édition.
Mais du coup, effectivement, je trouve que là, rien qu'en y jouant une heure, t'as cette espèce de truc très feel good. Voilà, le soleil, les petites piscines, les petits personnages là avec leur banane, leur ananas sur la tronche.
Et le sens du détail justement Nintendo, pour moi, c'est quand tu arroses ces mecs là, ils ont des réactions
c'est très rigolo, il y a un truc très ludique, t'as un feedback vraiment très fun de ce que t'es en train de faire quoi. C'est ça encore une fois, c'est un peu une des autres marques de fabrique de Nintendo.
Et puis ils vont même bien réussir à utiliser l'eau, par exemple dans le Mario 64, quand tu tombais dans le vide et tu perdais, alors que là en fait la philosophie de Sunshine est un peu différente, parce que souvent dans les niveaux en fait il y a de l'eau dans le fond, et ce qui fait que quand tu vas tomber, tu vas pas vraiment perdre, mais tu vas pouvoir essayer de remonter. Et en fait, au fur et à mesure que tu tombes, tu vas toujours trouver des places un petit peu différentes pour pouvoir remonter plus rapidement, tu vois, en utilisant ton jet, mais aussi en utilisant toute la palette de Mario. Et c'est vrai qu'il y avait une philosophie un petit peu différente quand même dans le jeu, même si je pense que voilà, aujourd'hui, rétrospectivement, on peut dire que c'est celui qui bouleverse le moins la recette, et puis c'est peut-être le moins populaire tout simplement parce que c'est le moins vendu. Il est sorti sur ce sera plutôt 3D World le vraiment le moins vendu, mais voilà,
la GameCube c'est un échec en fait, pour Nintendo, c'est vraiment une console qui s'est pas vendue. En face il y a une petite console qui s'appelle la PlayStation 2 dont vous avez peut-être entendu parler, qui était vraiment intouchable à cette époque. Vraiment Sony, il marchait sur l'eau pour le coup, et c'est vrai que la GameCube n'ayant pas trouvé son public, le jeu lui non plus, donc il reste pour beaucoup de gens qui avaient la GameCube un jeu vraiment très plaisant.
Bon,
moi j'ai des super souvenirs aussi. Mais voilà, il a pas connu cette espèce de succès comme le 64 ou un peu après le Galaxy, et puis surtout
il a pas bousculé les codes. Un petit truc aussi sur lequel je voulais revenir, parce que moi j'avais complètement oublié, mais Hugo nous l'avait rappelé, c'est que tu ne débloques pas toutes ces les fonctions de jet, tu les as jamais toutes au même moment en fait. Tu as soit le truc qui propulse, soit le jetpack qui te fait planer. Moi dans mes souvenirs tu avais tout, et du coup tu pouvais t'éclater avec Mario. En fait non, pas du tout,
non,
c'est
ça reste selon les niveaux. niveau.
Ouais, c'est comme les costumes, en fait. C'est comme les costumes que tu auras parfois dans un niveau. Voilà, tu te dis, bah, cette fois, tu as le costume, bah, dans les galaxies, par exemple, tu as le costume nuage. Et voilà, tu fais le truc avec le nuage, mais tu ne l'auras pas quand tu veux. Et effectivement, moi, c'est vrai que je me souviens que j'avais vraiment été très, très déçu quand j'avais découvert un nouveau truc pour Jet. Je fais, oh, trop bien. Et en fait, j'avais compris que, ah non, en fait, ça remplace et je peux pas jongler entre les différentes fonctions comme j'ai. Et t'as pas cette espèce de marqueur de progression. Enfin, j'aurais trop aimé me dire, ah, je l'ai tout le temps le truc propulsé. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans tous les niveaux et l'utiliser, quoi.
Et c'est parce que, bah, toujours, ça, c'est un truc qui a toujours en ligne de fond. Mais Nintendo a toujours ce souci de faire quand même des jeux qui sont assez accessibles, qui sont autant pour les enfants que leurs parents, voire leurs grands-parents avec la Wii. Et du coup, bah, si t'avais tout en fait en même temps, ça ferait peut-être beaucoup trop de mouvements en même temps. Ah, ouais. Et surtout, le fait d'avoir telle capacité à tel moment, c'est bon, tu sais que c'est ça dont il faut se servir là, maintenant, en tout cas.
Et puis surtout, c'est que ça pouvait casser complètement des épreuves, en fait. Ça pouvait casser le level design, c'est-à-dire dans les autres niveaux où tu débloquais momentanément une capacité, c'était parce que t'en avais besoin pour monter en haut du phare ou un truc comme ça. Mais si tu l'avais sur un autre parcours, tu pourrais cheater, passer par-dessus des murs et des trucs comme ça.
Après, si dès le départ, ils avaient réfléchi le jeu,
avec toutes ces capacités,
ils auraient adapté le level
design. Mais on en reparlera quand on parlera d'Odyssée, parce que du coup, c'est un peu ça qu'on a comme différence dans Odyssée. Mais avant ça, il y a eu Mario Galaxy.
Les galaxies qui arrivent avec la Wii. Alors aujourd'hui, la Wii, c'est le plus grand succès. Quoi que non, je pense que les DS et compagnie, c'est
la PlayStation 2 est toujours la console la plus vendue.
Oui, ça c'est, ça, c'est sûr. Nintendo... Et je crois que la DS est plus aussi. Je crois que la DS, elle est quasiment au même niveau que la PlayStation 2.
La Wii, en tout cas, quand ça arrive, voilà. Vous en souvenez, si vous étiez là entre les années 2006 et 2012-13, c'était vraiment un raz-de-marée. La Wii,
les
papillonnés
qui jouent à Wii Sport, les pubs sur la télé, voilà.
Parce que pour donner un ordre d'idée, la 64 et la GameCube, c'est à peu près le même nombre de ventes. Alors GameCube, c'est environ un peu plus de 20 millions, et 64, c'est environ 30, je crois.
C'est ça, exactement.
Et la Wii, c'est plus de 100 millions. Donc, alors, on n'est toujours pas au niveau de la PS2 qui, elle, a fait 150 millions, mais Nintendo connaît un âge d'or, en fait. Vraiment.
Ouais. En fait, ils connaissent un âge d'or sur console. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que Nintendo, ils ont toujours joué sur deux terrains. Ils ont sorti donc le ou la Game Boy, vous vous débrouillez avec ça. peu importe. Et donc, dès la Game Boy, ça a commencé à vraiment cartonner. Ensuite, ils ont eu la Game Boy Advance, qui était aussi la meilleure console de l'univers. Et la DS, qui évidemment, dans les années 2000, a tout changé. Ils ont apporté le tactile. Enfin bref, voilà. Nintendo jouait toujours sur les deux terrains, mais le succès côté console de salon, ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient pas renoué avec ça, depuis la Super NES, en fait. Et là, la Wii, ça a été... si vous avez connu ces années-là, c'était n'importe quoi. C'est vraiment l'explosion du jeu pour tout le monde. On a eu cette idée que tout le monde pouvait jouer aux vidéos, t'avais le motion gaming,
ce Nunchuk et cette Wiimote qui changeait vraiment. Là, autant la GameCube, on était dans les prémices de ce que vont être toutes les manettes de jeu, autant là la Wiimote et le Nunchuk, on est sur quelque chose de totalement hybride avec une
qu'on a jamais revu depuis. Alors il y a un peu avec
les Joy-Con, on peut retrouver un petit peu cette dynamique là,
mais c'est pas très utilisé,
c'est pas quelque chose qu'on va forcément retrouver. Et du coup, le Mario qui sort dessus, là il a une nouvelle contrainte, c'est que il y a plus de deuxième stick sur la Wiimote. Donc forcément, Nintendo va devoir rentrer dans une nouvelle philosophie, faire quelque chose de différent. Et en fait, ils vont vraiment revenir à une formule presque 2D, entre guillemets. En tout cas, avec des niveaux qui sont beaucoup plus linéaires que ce qu'on avait avec 64 et Sunshine. Et je pense que ça leur a vraiment réussi parce qu'ils ont aussi pu le coupler avec cette idée de gravité et de sphère, en fait, de faire des niveaux qui étaient sphériques. Et je pense que dès que tu rentres dans Mario Galaxy, tu ressens ce truc. À la fois, c'est pas si compliqué parce que c'est juste on te met la tête à l'envers, mais le fait de pouvoir faire des petits niveaux qui s'enchaînent et qui sont construits sur des sphères, en termes de level design, ça t'offre plein de nouvelles possibilités. Et c'est un jeu qui, encore une fois, va montrer que Nintendo, quand il est question d'aller au bout de leurs possibilités, ils vont y aller à fond, et peut-être même tellement qu'ils auront besoin de faire un Mario Galaxy 2 pour
ils avaient tellement d'idées qu'ils ont été obligés d'en rajouter dans un épisode à part, quoi.
Ouais, c'est pas impossible que ce soit aussi pour surfer sur le succès de la Wii. Et pour info, ils avaient à l'époque de 64, ils avaient déjà prévu de faire une suite sur ce qui s'appelait la 64DD, qui était une espèce d'extension hardware de la 64 pour lui donner plus de puissance, qui n'a pas du tout marché parce que sorti beaucoup trop en retard. Mais c'était juste pour dire que cette volonté de faire une suite, elle est pas née, tu vois.
C'est une exception dans l'histoire de Nintendo.
Dans les jeux sortis.
Mais en fait, ils voulaient souvent le faire. Alors, je pense que pour Sunshine, justement, vu le score de la GameCube, ils se sont dit, c'est peut-être pas le bon moment. Alors qu'à l'inverse, en 2010, la Wii, ça devait faire aller 4 ans qu'elle était sortie. Je crois qu'elle est sortie en 2006. Elle devait bien taper ses 60 millions, peut-être même plus, 80 millions. Ils ont pu se dire, on peut sortir le Galaxy 2. De toute façon, il y a un parc installé tellement énorme qu'on peut
ça
le rentabiliser.
Tout à fait. Mais ça a vraiment tout changé, je trouve, ce Galaxy par rapport à ce qu'on connaissait avant. Moi, c'est mon épisode favori parce que j'adore vraiment cette idée comme ça de pouvoir jouer avec les niveaux tête à l'envers, etc. Et c'est vraiment un truc, quand j'y repensais et que j'y rejoue un petit peu, du coup, pareil, en émulation, et de me rendre compte que le motion gaming, c'était finalement, même si c'était un peu gadget, ça apportait vraiment quelque chose de différent par rapport à nos contrôles habituels. Et je trouve ça absolument brillant, la façon dont ils se sont dit, bon, bah en fait, notre manette, elle est moins pratique, elle est moins puissante, entre guillemets, on a moins de possibilités que ce qu'on avait avant, même si on peut la secouer pour faire des trucs. Donc comment on va penser ? On va inverser le problème. Ok, on peut pas gérer la caméra, ben en fait, on va créer des niveaux où il n'y a pas besoin de le faire, et il y a eu cette idée de sphère qui a apporté énormément de choses. Et moi, un truc que j'ai toujours trouvé cool avec Galaxy, et je pense que tu l'as peut-être ressenti si tu as rejoué, ou si vous avez rejoué tous les deux, c'est que quand tu es à tête à l'envers, les contrôles, ils pourraient s'inverser.
Ouais, et non.
Pensé ça, que si tu es dans la même direction, tu peux continuer de maintenir appuyé dans la même direction, ton bonhomme, il va aller là où tu as envie d'aller.
La pire des choses à faire, je pense, en termes de décision d'inverser, parce que ça rendrait tous ces niveaux cognitivement complètement, tu serais là, non, c'est pas
mais
agréable.
Justement, tu vois, et sur le papier, tu pourrais dire que c'est ultra casse-gueule. Et ben non, c'est ultra agréable, c'est super fun, c'est très ludique. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. J'ai ressenti la même chose avec Outer Wilds. Tu as un côté un peu Petit Prince où tu vas sauter sur. Ouais. Tu vas tourner sur une planète qui est minuscule, tu peux en faire le tour à pied. Je trouve que c'est une idée qui est, d'un point de vue, tu vois, on va dire rêve, assez intéressante. Ouais. Et Galaxy, ils jouent avec ça vraiment de manière brillante. Quoi.
Ouais, pour en revenir sur ce référentiel, en fait, ils ont adopté une norme qui est. Alors là, pour le coup, je peux vraiment pas faire l'historique de ça, mais tu as cette idée que. Si t'es juste en train de pousser le joystick avant, donc il va aller toujours aller tout droit et faire le tour de la sphère tout le temps, mais dès que tu relâches le joystick, en fait, si tu vas dans l'autre direction, il peut aller dans l'autre direction dans laquelle il allait. En fait, tant que t'as pas relâché le joystick, il garde la direction qu'il avait au départ.
Mais c'est très naturel, une fois qu'on y arrive, en fait, manette en main, parce que du coup, avec le Nunchuk, tu t'en rends pas vraiment compte, quoi. Ça marche vraiment très bien.
C'est comme, alors ça, c'est plus un problème de caméra fixe, mais par exemple, les Resident Evil, par exemple, si tu restes appuyé sur le bouton tout droit, ce qui pouvait éventuellement se passer, en tout cas, ce qui se passe avec le premier Grim Fandango, c'est que si tu restes appuyé sur tout droit, mais qu'ensuite la caméra change et elle inverse le côté, en fait,
oui, tu pouvais rentrer puis ressortir des pièces.
Devil May Cry,
on le faisait aussi.
Tout le temps, ça, c'était hyper chiant.
Et maintenant, la norme, c'est que tant que t'as pas relâché le bouton,
voilà, le
il
référentiel
continue
part
d'aller
du,
dans
du,
cette
voilà,
direction.
C'est le même référentiel de départ.
Et là, c'est la même idée. Et sinon, il y a donc Koizumi, qui est encore réalisateur sur Galaxy. Il s'est exprimé un petit peu sur la caméra. Il a pas vraiment dit que c'était parce qu'il y avait pas de joystick qu'ils ont fait cette caméra-là, même si on imagine que ça en fait partie. Mais il a aussi dit que dans 64 et Sunshine, la caméra était pas non plus complètement parfaite. Tu vois, il y avait des soucis de caméra, même si voilà,
le niveau d'exigence c'est l'exemple c'est que cité par tout le monde, personne n'arrive à faire mieux, mais c'était pas ouf.
Mais du coup, on peut éventuellement se dire que ce qui sous-entend, c'est que même s'il y avait eu un joystick sur la Wiimote, la caméra, il y aurait quand même eu ce souci en fait de proposer des sphères avec une caméra du coup, qui n'a pas d'obstacle en fait et qui est complètement libre et qui est pas un souci, parce que toujours ce souci d'accessibilité, de ne pas rajouter ça en charge mentale à gérer pour les joueurs.
Et puis ça créait des niveaux qui étaient super intéressants parce que tu avais tous les niveaux, tu sais, où tu passais d'une planète à l'autre, donc ça permettait vraiment de jouer avec cette caméra, d'avoir une mise en scène très action.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça que le jeu aussi il est assez linéaire, parce que tu es vraiment dans un long tunnel comme ça d'aventure où tu arrives sur une planète, il y a une idée, tu exploites cette idée, pouf, tu passes à une autre planète.
La part d'exploration en fait qu'on pouvait trouver dans les premiers, dans les deux autres, n'est plus du tout là, ou alors vraiment c'est des petits secrets ici et là, mais c'est très très léger, et c'est un jeu qui du coup comble ça avec une myriade d'idées en fait, parce que vraiment chaque galaxie, t'en as, je sais pas, il y en a 8, un truc comme ça, il doit avoir aussi 8 galaxies je crois dans le premier, et à la fois t'as des petits, en fait c'est un système, c'est une petite galaxie, il y a plusieurs planètes à l'intérieur, et chaque planète a vraiment son identité, sa petite idée, et en fait quand tu fais le jeu, c'est un... Je sais pas, t'as l'impression d'être effectivement dans un gros tunnel, mais tu sais, tu vois à chaque fois un arrêt sur une nouvelle station, et ça ressemble pas du tout à la précédente, c'est à chaque fois une nouvelle idée.
C'est ça.
Et tu c'est changes, un jeu que t'enchaînes, il y a tout le temps.
Moi, je me souviens que
idées,
quand t'arrives avec le niveau avec l'abeille et que tu deviens une petite abeille
oui,
avec ses petits poils, tout truc et tout,
dessus,
tu grimpes
ça,
dessus, c'est assez magique. Et puis, deux secondes plus tard, tu vas être sur une forme de pilule ou un truc comme ça. Enfin, ils ont eu tellement d'idées extrêmement créatives que toi, t'arrives, c'est à chaque fois, voilà, comme tu dis, t'arrives, tu découvres un nouveau truc, tu vois, c'est une espèce de buffet, tu manges un petit truc et le truc d'après, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi cool que ce qu'il y avait avant.
Et puis, quand même, malgré tout, ils vont chaque fois chercher à maîtriser justement cette petite idée. Par exemple, t'as une mécanique qui est des petites étoiles flottantes et tu vas devoir cliquer dessus avec la Wiimote, et ça attire Mario. Et en fait, il vole comme ça, il est un peu dans les airs, et tu dois le diriger comme ça d'étoile en étoile bleue qui le pull comme ça, qui le tire vers lui. Et en fait, bah voilà, tout un niveau va être dessus, et puis après, tu vas devoir le faire avec un timer, après, tu vas avoir des ennemis qui vont t'embêter pendant que tu fais ça. Et c'est vraiment ça, cette construction, et vraiment cette philosophie du level design Nintendo qui est dire, regarde, on a une petite idée, t'as vu, c'est un petit peu rigolo, après, on te montre un petit peu comment on peut le challenger, et après, à la fin du niveau, on te montre, voilà, ce qu'on peut faire avec. Et voilà, à chaque fois, tous les niveaux, c'est des itérations autour de ça. Moi, je me souviens du combat contre Bowser, là, où il tourne sur une planète, t'as l'impression qu'il fait une espèce de balle de foot, et tu dois essayer, tu vas au sens inverse de lui pour le rencontrer, justement, de l'autre côté de la sphère, et bim, lui mettre un coup de pied, comme ça. Et c'est vrai que c'est très chouette, ces niveaux sphériques, parce que ça permet de faire des combats de boss ou des situations qui sont différentes. Tu te fais poursuivre par des bilboom, et tu dois passer en dessous des trucs. Donc, il y a un côté hyper créatif, hyper fun, comme ça, qui est permis par la gravité et la structure de l'espace, comme ça, qui est vraiment chouette.
Et je reviens sur les costumes, c'est intéressant de noter qu'il y en avait plus dans 64 et Sunshine.
Parce que t'avais les jets qui remplacent un peu ça.
Qui sont différents. Et ça, c'est des choses qu'on avait du coup plus vues depuis les 2D. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été introduit, je crois, dans Super Mario Bros. 3, où il y avait le fameux costume de Tanuki qui permet de voler, celui de Grenouille qui permet de mieux nager, etc. etc. Et là, avec Galaxy, on revient à une philosophie un petit peu plus 2D où là, il faut aller au bout du niveau, c'est un peu plus linéaire. Et du coup, ils ont remis des costumes parce qu'il y a peut-être cette idée de là, tu t'en sers là.
Exactement, ouais, ils peuvent exploiter. Là, je sais qu'il y a Mario de glace, et puis dans le 2, t'as le Mario nuage, il y a Yoshi,
il y a les abeilles,
effectivement, il y a Mario Rocher aussi qui peut faire des trucs. Enfin, voilà, t'as toute une panoplie de costumes. Et là, encore une fois, c'est l'avantage de faire des niveaux qui sont plus linéaires, c'est que ça te permet de mieux maîtriser tes gameplay beats, entre guillemets, tes petites tonalités de gameplay et tes petites idées. Et voilà, si tu mets un costume dans un niveau ouvert, ce costume, on va toujours pouvoir l'utiliser. Et du coup, qu'est-ce que t'en fais? Tu peux pas forcément faire les mêmes parcours parce que je peux pas te mettre les mêmes contraintes. Et voilà, encore une fois, la linéarité permet vraiment de
contenir en fait tes capacités à un instant T. Et surtout de ne pas te confondre au niveau des possibilités, parce que là où ils sont toujours très malins chez Nintendo, c'est que quand t'as un costume grenouille, tu te dis je vais être une grenouille, je vais avoir des pouvoirs liés à une grenouille. Donc tu as cette espèce, donc ce qu'on appelle l'affordance, où tu comprends en fait ce que tu vas pouvoir faire en voyant un objet. Donc ils sont très forts pour ça, parce qu'ils te disent tiens, il y a le costume nuage, ça veut dire que ça va être un niveau plutôt comme ci. Et donc plutôt ils arrivent comme ça à contourner le problème du il y a beaucoup de gameplay. Quand tu réfléchis à tout ce que tu peux faire dans un Mario Galaxy, c'est pas un jeu qui est si accessible que ça, mais en découpant de manière aussi formelle avec les costumes, avec les explications et avec leur façon, comme tu le disais, d'introduire une nouvelle mécanique qui est toujours très très systémique, on te fait un tout petit challenge de rien du tout, juste pour que tu comprennes un peu l'idée. Une fois que tu as bien compris, on te met un truc plus difficile, etc. Donc ça permet en fait de ne pas perdre les joueurs et les joueuses en cours de route, quoi. Ils arrivent à se dire on t'a filé ce truc là, ça change complètement du niveau d'avant, mais t'es pas perdu pour autant.
Même si le 2 est quand même plus ardu que le 1, je peux en témoigner de l'expérience de mon gosse qui a fait justement les galaxies, qui a adoré vraiment Mario Galaxy. Enfin, vraiment, il en est tombé dingue du jeu.
Un jeune homme de bon goût.
Et il a vraiment adoré. Il me dit les musiques, enfin, tout est cool, tu vois. Et le 2, et autant le 1 ça s'est vraiment bien passé, autant le 2 je me souviens vraiment d'une fois où tu sais il me dit je peux jouer à Galaxy 2, je fais oui vas-y, tu vois. Et puis tu sais, au bout d'une demi-heure, j'entendais pas de bruit, parce qu'en général il commente, il dit machin, tu sais, j'entendais plus rien. Et en fait, je monte, il y avait plus personne dans ma chambre, tu vois. Elle était retournée dans sa chambre, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et moi, j'arrive pas, tu vois. Il y a plusieurs fois où il a rage quitté comme ça. Mais je pense que parce que le jeu
mais c'était l'objectif du 2, il avait vraiment cette intention de la de
un peu lost level, tu vois, comme ils avaient déjà fait avec des Super Mario, où c'était vraiment le niveau un petit peu supérieur, en considérant en fait que tu as déjà fait le 1, donc tu connais déjà pas mal de mécaniques. Mais voilà, vraiment un retour à cette formule 2D, et je pense que beaucoup de gens aiment, justement parce qu'il y a cette espèce de maîtrise, ce truc extrêmement calibré en fait que peut proposer un Mario. Et vraiment, quand tu es à la fin du jeu, tu as fait plein de choses, et surtout il y a plein de défis optionnels, les étoiles filantes, les machins, enfin voilà, il y a ce truc très calibré, je pense, qui plaît beaucoup. Et après, on va passer à Mario Odyssey. Mais alors, juste avant, on va peut-être passer par 3D World.
Pour le citer, le pauvre.
Bah, le pauvre, encore une fois, c'est celui qui est clairement le moins vendu de très très loin, parce que la Wii U, comme on le disait. Et puis aussi parce que c'est vrai que c'est pas un jeu qui a un thème aussi fort que ce même Sunshine, tu vois, qui avait vraiment le soleil, le jet, vraiment une feature de gameplay et un setting qui était particulier. Galaxy, j'en parle même pas, et on l'a expliqué. Là, voilà, c'est éventuellement le costume de chat, mais c'est des niveaux qui sont peut-être aussi linéaires que ceux que propose Mario Galaxy. Il y a cette même philosophie de une mécanique sans danger, et puis après le challenge, etc. mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas la folie qu'il y a dans Galaxy, et encore moins dans
Odyssey. Non, c'est un jeu qui est assez frileux, parce qu'en fait, ils surfent plutôt sur un autre truc qui se passe du coup en parallèle, hein, parce que c'est toujours ça, Nintendo, faut toujours penser deux niveaux, jusqu'à la Switch, qui va permettre de enfin faire cumuler tout ça, de réunir les effluves. Mais c'est qu'il y a New Super Mario Bros. Qui est sorti en 2000, je ne sais plus la date, mais sur DS, est en gros une réinvention pas très folle de Super Mario Bros, mais avec des graphismes plus modernes, des nouveaux costumes, des nouveaux machins, des nouveaux personnages jouables, qui cartonnent, mais qui vraiment ça se vend
30 millions,
donc c'est n'importe quoi.
Et
c'est
pareil sur
plus.
Wii, il y en a eu un sur Wii et sur DS, donc il y a les deux qu'on tout flingué.
Et donc le Mario 2D a toujours un attrait auprès du très grand public qui dépasse ceux de la 3D. Nous-mêmes, quand on le préparait, on se disait que c'était presque des jeux de niche, tu vois, on disait ça entre guillemets, mais c'est presque l'idée, parce que ça s'adresse à un public légèrement différent. La 2D, ça, cette simplicité du il faut aller sur la droite de l'écran, c'est pas très compliqué.
En fait, même si Nintendo, ils ont réussi eux-mêmes à créer la 3D, en fait, il y a toujours cette barrière. C'est-à-dire qu'un jeu 3D, c'est toujours plus compliqué à aborder, quoi qu'il arrive, qu'un jeu 2D. Et oui, je pense qu'effectivement, ça prouve encore une fois que, en faisant du Mario en 2D, il pouvait être encore plus fédérateur. Et puis, ce qu'on disait, tu peux jouer à plusieurs aussi, ce qui n'est pas le cas des Mario 3D. Et c'est vrai que sur la Wii, qui était vraiment une console familiale, pouvoir jouer à plusieurs, c'était, je pense, pour beaucoup de famille, un prérequis pour pouvoir jouer.
Ouais, c'était un peu
jeu,
le truc. Donc Mario Galaxy là-dessus, bon, il y avait la possibilité de que la deuxième personne utilise la Wiimote
pour choper les étoiles.
C'est très limité. On n'est pas dans le même délire. Là, Super Mario 3D World.
C'est vraiment pour
World.
Ton gamin qui a 3 ans qui veut te tenir la tête. C'est comme tu faisais, je faisais avec mes frangins, tu vois, tu sais, je branchais pas la manette, je la mettais dessous, tu sais, genre dis ouais, c'est toi qui joues, tu vois.
Ouais, oui, c'est un peu ça, ouais. Et là, du coup, Mario 3D World, il introduit cette idée de pouvoir jouer à 4. Il y a des coopérations, il y a des costumes différents, il y a le fameux costume de chat. Enfin, il y avait quand même plein d'idées très ludiques. Le souci, c'est qu'évidemment, c'est que la Wii U, ça a été le plus gros échec en termes de vente de Nintendo à ce jour. Et donc, en fait, il y a très peu de gens qui ont joué, tout simplement.
Et puis, comme dit, tu vois, il n'y a pas d'idée principale, en partie parce que c'est. Alors, c'est pas un Mario, entre guillemets, canonique par rapport aux autres 3D, mais c'est le seul 3D qui n'exploite pas non plus le hardware de la console.
Ouais, non, non.
Tous les autres,
tu dois peut-être te servir du tactile, mais en fait, le truc, c'est que 3D World, c'est une extension de celui qui est sorti sur 3DS en plus.
Ouais,
c'est-à-dire
c'est
que c'est même pas un Super Mario, quelque chose fait vraiment pour la Wii U.
C'est pas le Mario de la console, c'est pas Mario 64 où là, il va falloir se servir un peu de la caméra, des croix directionnelles, du joystick. C'est pas le Mario Sunshine où t'as les gâchettes pour tirer, c'est pas le Mario Galaxy où t'as le motion gaming, etc. Non, ou Odyssey, on va y revenir. Mais oui, il fait pas la grosse exclue de
c'est
la console.
C'est pour ça qu'on a décidé de pas l'inclure dans cette liste-là. C'est pas qu'on l'aime pas. C'est juste
non, mais il y a des gens sur le Discord qui demandaient pourquoi ne pas forcément trop en parler. On s'est dit parce que on en parle, mais c'est parce que justement en fait il est moins important, et c'est ce qu'on disait pour au début de l'émission, ce que je disais, qu'est-ce qu'il représente pour Nintendo. Effectivement, celui-là, c'était pas le Mario System Seller qui est là pour vendre des consoles. Alors peut-être qu'ils auraient aimé que ça le soit, mais malheureusement
l'histoire a été différente.
À l'échelle de la Wii U, c'est quand même relativement bien vendu, hein. Attends, c'était quoi le chiffre?
En même temps, la Wii U, tu vends déjà 3 jeux, t'étais bien vendu à l'échelle de la Wii U.
Oui, voilà.
Mais c'est quand même, attends, c'est la Wii U, voilà, alors que la Wii U, c'est,
je sais plus combien,
c'est 8 millions, un truc comme ça, c'est, ouais,
non, mais c'est vraiment
c'est,
pas beaucoup,
c'est autant vendu que Sunshine quand même.
Ouais, c'est, oui,
la console,
ah,
c'est autant que Sunshine.
Elle a duré très peu d'années, elle a eu un cycle de vie extrêmement court
entre deux générations. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe, franchement, la Wii U, de communication, le catalogue. Bon, on peut aimer les jeux Wii U, mais de toute façon maintenant ils existent sur Switch, donc c'est vrai que c'est pas un accident, mais c'est vraiment une anomalie, cette console.
C'était compliqué de toute façon. Ils étaient à la fin de la Wii, pour faire un peu de contexte, c'était, ils étaient vraiment dans une optique où qu'est-ce qu'on fait avec tout ce nouveau public, comment on fait pour les garder avec nous. Il fallait garder le nom Wii, ça je peux comprendre la logique de se dire il faut qu'on s'appelle ça encore la Wii, mais enfin, tout le monde se souvient de cette E3 où à la fin, après la présentation de Régis Fils-Aimé, la plupart des gens se demandent si c'est une nouvelle console ou un nouvel accessoire.
Parce que justement, il y avait déjà la board, il y avait déjà plein de trucs. Il y a tellement de choses qu'on pouvait mettre sur ça.
Oui, tu pouvais avoir un arc, tu pouvais avoir un fusil.
C'est vrai,
les accessoires pour avoir bossé en magasin à l'époque, c'était stupide. C'était n'importe quoi là. Oui, c'était vraiment. Tu sentais que d'un coup, on voyait arriver tous ces nouveaux gens qui ne jouaient pas avant aux jeux vidéo, qui découvraient ce truc-là. C'était très enrichissant, et à la fois c'était bordélique parce que c'était fait tellement tous azimuts sans qu'il y ait aucune limite, on comprenait pas ce qui se passait, tu vois.
En
nous
fait,
en magasin,
le contre-coup
était là,
est vraiment tombé avec la Wii U,
et la Wii U ça a mis un stop.
On a compris cette espèce d'incompréhension, on voulait transformer tous ces gens en joueurs.
Et en fait, on n'a pas réussi.
En fait, non. C'était. Enfin, il y aura toujours une.
Et mine de rien, la NX, enfin donc la Switch aujourd'hui, la était. Oui, bah, ça s'appelait comme
oui,
ça.
C'est vrai, oui.
C'était quand même le prolongement de la Wii U. Parce que dès la Wii U, ils avaient cette idée de pouvoir se dire on veut jouer en nomade
truc
et
hybride,
on veut jouer en console. On veut un truc hybride.
C'est vrai.
Oui, non, mais l'échec de la Wii U, c'est pas que les possesseurs de Wii qui n'ont pas été convertis en hardcore gamer, entre guillemets. C'est aussi que la proposition hardware, elle était. Aussi pas très clair et pas abouti.
Aujourd'hui, quand, voilà, rétrospectivement avec la Switch, on se dit voilà, c'était vraiment un brouillon de la Switch et on voilà, c'est ça qu'ils voulaient faire et ils ont réussi. Bah, voilà,
en tout cas, c'est ça que t'aurais voulu acheter.
Voilà, c'est ça que je crois qu'on a voulu
mais
acheter.
Oui, c'est
hein,
ça. Et quand ils l'ont annoncé Switch. Et que ça y est, c'était vrai, on pouvait avoir une console de salon, mais c'était aussi une console portable. Tu te disais enfin, pour une fois, Nintendo va nous proposer tout sur un seul support et ça change tout. Enfin, vraiment, c'est là pour le coup, la NX, la Switch, c'est vraiment un gros changement dans l'approche de Nintendo. Aujourd'hui, ils ont plus de consoles portables qui fonctionnent en parallèle et donc ils ont sorti évidemment un Mario canonique dessus, c'est Mario Odyssey. Et ce que je trouve vraiment cool, juste avant qu'on parle de tout un tas de choses qu'il y a dessus, c'est que il arrive 25-30 ans après le Super Mario Bros et ils sont conscients de l'aura, de cette espèce de côté sacro-saint de Mario, parce que c'est vraiment un épisode de l'hommage,
de
l'autocitation,
la célébration
et
de
c'est vraiment
ce Mario,
c'est le festival, tu vois, c'est
c'est l'Odyssée, quoi. Je trouve il y a un truc extrêmement épique et festif et voilà, de Mario, vous connaissez, tout le monde connaît Mario, vous êtes tous des fans de Mario, on aime tous Mario et on va tout vous mettre dedans.
Mais oui, non, mais en plus c'est ça,
c'est vraiment
sous
ça.
Un autre ton, c'est marrant parce que c'est alors vous aimez Mario, c'est plus le mec ras-le-bol
et franchement c'est un petit peu la philosophie du jeu, c'est un peu vous aimez Mario, bah vous allez en bouffer.
On va voir si vous aimez toujours Mario.
Il y a 12 milliards de lunes. Non mais t'as un côté vraiment all you can eat, vraiment buffet à volonté de c'est le festival, voilà, c'est Mario, on va se taper des délires, t'as des niveaux en 3D et à un moment donné, boum, tu as un niveau en 2D avec la musique en 8 bits, etc., etc. C'est vraiment un truc qui veut jouer sur la nostalgie et surtout sur cette espèce d'amour pour ce personnage qui a vraiment explosé au-delà de la simple sphère du jeu vidéo.
Et autour de cette proposition, une communication, il y a aussi quand même, faut bien contextualiser je pense les attentes, comme on l'a dit, la Wii U s'est mal vendue, elle n'a pas eu son Mario canonique, le Mario d'avant c'était un numéro 2, ça veut dire que depuis 2007, il n'y avait plus
il y avait 10 ans. Il n'y avait plus de nouveau Mario 3D.
Et aussi, là, il sort pour le premier Noël de la Switch. La Switch sort genre en mars 2017, et lui, il sort genre en octobre de la même année. Donc, il y a plein de choses. C'est le Mario canonique qui va exploiter le hardware. On n'avait pas vu Noé Mario depuis Galaxy. Il arrive pour Noël, donc déjà,
la console, elle a déjà une courbe de progression énorme où il y a une époque improbable où il y avait plus de jeux vendus que de consoles.
Il y avait plus de Zelda. Enfin, en fait, la Switch, déjà, elle a eu Zelda qui est, on en a déjà parlé, mais qui a fait quelque chose dans le jeu vidéo qui l'a poussé en fait d'un coup. Il y a eu un gros push, un gros marketing push. Regardez, on a ce jeu. Et après, Mario est venu rafler la mise. Voilà, aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est l'épisode le plus vendu. Hein, 18 millions
des
pour
l'instant. 3D.
Des épisodes 3D, bien sûr. Oui, c'est vrai que les New Super Mario Bros, là, dont tu as parlé, c'est 30 millions. Hein,
c'est
ce
qui est beaucoup plus.
On est encore ailleurs. Mais c'est vrai que, bon, déjà, Mario Odyssey, il a pas fini sa course parce que des Switch, il va encore s'en vendre. Et je pense qu'il y aura des Mario Odyssey qui se vendront dessus. Mais voilà. Il y avait vraiment une force à l'entrée de cette Switch. Et puis, c'est un Mario qui, arrive vraiment avec une ambition de dire « On va encore faire quelque chose. On va vraiment tenter de retravailler notre formule. On a fait quelque chose avec Galaxy. Maintenant, on revient vraiment au Mario Exploration. Et on va vraiment aller à fond dans cette philosophie. »
Avec la contrainte très particulière qui... rappelle encore une fois que les Mario sont vraiment les jeux de leur console systématiquement, c'est que quand ils font la console, quand ils font le jeu, pardon, ils ne savent pas que la console va être un succès, mais ils savent que la console, par contre, va être à la fois une console portable et à la fois une console de
nomade,
salon. Et il y a un truc que chez Nintendo, ils savent bien, c'est qu'est-ce qui fonctionne sur un truc nomade. C'est plus ou moins eux qui ont inventé le jeu portable, c'est eux qui ont vraiment démocratisé ça en tout cas, et donc ils savent ce qui fonctionne, ils savent qu'il faut des expériences peut-être plus courtes, un peu plus casues, un peu plus faciles, et donc ils vont essayer de faire un jeu qui à la fois te permet de passer de longues sessions sur ta télé, etc., quand t'es dans le salon avec les amis, la famille, etc., et à la fois si tu l'emmènes sur un terrain de basket, sur le barbecue,
dans l'avion,
sur le barbecue, sur un toit,
en fin de soirée, après avoir picolé, regarde, j'ai j'ai ma Switch, on peut jouer ensemble.
La présentation de la NX était assez improbable, mais bon voilà, si vous êtes dans ces situations là quand vous êtes sur votre terrain de foot avec votre Switch, vous pouvez continuer
plus probablement aux toilettes,
voilà, ou dans le métro ou le train ou j'en sais rien, vous avez en fait la possibilité, votre temps de jeu il est réduit, vous avez pas des heures parce que d'une il y a la batterie qui va vous rappeler à l'ordre, et surtout c'est pas adapté. Donc ils ont réussi à faire, enfin ils ont essayé de faire coexister ces deux approches, et c'est pour ça que c'est un jeu où il y a vraiment une avalanche de contenu qui paraît complètement, tu vois, il y a un gap énorme entre les trucs les plus complexes à faire et les trucs les plus basiques où il suffit de sauter un peu fort et hop, t'as une étoile.
Est-ce que ce serait pas le moment citation
Bien sûr.
Et du coup,
il faut qu'on fasse un jingle.
Mais je vais contextualiser juste un tout petit peu l'auteur de la citation, qui est donc Koizumi, parce que donc lui, on le rappelle, il était réalisateur sur Sunshine et Galaxy, et depuis, il est devenu producteur et maintenant vraiment producteur de la Switch, donc c'est-à-dire qu'il va superviser un petit peu tous les jeux qui sont liés à la Switch,
et tout ça,
insuffler un peu la philosophie de la Switch, les idées qui sont derrière dans les jeux, et voir que tout calme bien. Et du coup, Koizumi nous dit, il y en aura deux, donc la première, j'ai pas fait ma voix de citation. L'une des grandes considérations lors de la création de Super Mario Odyssey était cette idée d'être capable de faire un Mario 3D pour console de salon qui pourrait aussi être emporté et joué de façon nomade. Donc ça, c'est déjà un petit peu ce que tu avais dit. Et ensuite, il y a Super Mario Odyssey contient réellement beaucoup d'éléments qui peuvent être appréciés lors de courtes sessions de jeu avec davantage de fonctionnalités orientées portables. Vous pouvez facilement faire des choses significatives dans Super Mario Odyssey en y jouant seulement 2 ou 3 minutes. Et quand on voit que ça, cette idée, effectivement, elle est au centre de la Switch, on comprend beaucoup mieux, on va y revenir en détail, la proposition de Mario Odyssey, mais c'est l'occasion aussi de rappeler que dans Breath of the Wild, t'as beaucoup de ça en fait. Alors c'est pas 2-3 minutes, je pense, c'est plutôt 10-15 minutes, je pense.
Mais il y a les korogus.
Les korogus, c'est typiquement ça.
Je pense que c'est pas la bonne analogie. Justement, parce que les korogus, c'est absolument insignifiant, t'en as pas besoin en vrai, que dans Mario, t'en as besoin.
Mais tu peux te faire une petite session là où tu vas juste te dire, tiens, là je vais me faire un korogu, mais il y a aussi les tours,
les sanctuaires,
c'est pour ça que les donjons sont plus courts dans Zelda. On l'avait peut-être pas dit à l'époque. Dans l'épisode.
Parce que t'as justement tous ces petits sanctuaires que tu vas pouvoir faire qui ont déjà en fait à chacun une petite mesure de ce que pourrait être un donjon de Zelda, et puis après t'as les créatures divines qui elles aussi effectivement sont beaucoup plus courtes qu'un donjon traditionnel de Zelda.
Moi je me souviens du témoignage, de mon beau-frère qui a son travail, ses enfants, mais en fait qui avait joué vraiment beaucoup à Zelda Breath of the Wild parce que il faisait plein de petites sessions peut-être 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là.
Il avait le temps de
le
décaler, et puis c'est vrai que la Switch, elle a encore une fois, je le dis tout le temps, ce truc très pratique de juste pouvoir mettre en veille, hop, tu réapparais où t'étais exactement, tu sais, ça freeze juste le jeu et c'est reparti, tu peux recommencer, et ce qui fait que c'est super agréable de pouvoir picorer comme ça. Et Mario Odyssey est vraiment designé dans cette philosophie. Alors comme je le disais, on revient vraiment à une structure très 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 ouverte, vraiment bac à sable et à fond en fait.
Vraiment, en fait, les Mario 64 ou Sunshine, s'il ne fallait pas revenir au début du niveau une fois que tu as chopé l'étoile ou le soleil. Voilà,
exactement, y a plus de vie déjà, tu n'as plus de vie. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as des pièces, il me semble.
Ouais, c'est depuis
pièces, en
New
fait.
Super Mario Bros.
Mais bon, voilà, tu peux en cumuler.
Ouais, t'as des milliards de vie.
Ça n'a pas une grande incidence. Et puis surtout, comme tu le dis, Maxime, effectivement, maintenant, dès que tu trouves une lune, tu ne reviens, tu ne ressors pas du niveau, tu continues à l'explorer. Donc ça, c'est quand même un marqueur assez différenciant quand même dans l'expérience, parce que tu vas pouvoir collecter beaucoup plus.
Et il y en a 999.
Et il y en a effectivement un peu plus que dans
les 100 étoiles.
Que dans les 100
étoiles. Il y en avait une centaine dans 64 et Sunshine. À noter quand même que sur les 1000, il y en a, je crois, peut-être 200 ou 300, où là c'est vraiment juste des achievements.
C'est Todd qui te les donne à la fin.
Ce qui veut dire que tu en as bien du coup 600 qui sont pour le coup vraiment physiquement.
Par niveau, il doit en avoir à peu près, je sais pas, une petite 80, 60 et 80, oui, ça dépend.
Je l'ai relancé justement pour préparer l'émission. Et dans l'un des tout premiers niveaux où tu peux te transformer en T-Rex, le niveau en lui-même, tu le traverses en 4 minutes, ça a tout pété, il y en a déjà 50. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Et moi, ça m'a fait peur, en fait. On y reviendra. C'est un épisode auquel j'ai pas adhéré. Mais justement, cette avalanche de contenu m'a fait un peu peur. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Mais c'est vrai que justement, déjà, il y a cette nouvelle philosophie de créer des mondes qui sont extrêmement denses, en fait, en micro-interactions et micro-activités qui peuvent prendre justement 2-3 minutes. C'est-à-dire que hop, tu vas pouvoir prendre un ennemi avec Happy, donc ça on en reparlera peut-être un peu après, mais bref, il y a plein de petites activités que tu peux faire en 2-3 minutes et qui te mèneront vers une lune, et ça il y en a de partout en fait, les niveaux ils sont farcis littéralement de lunes dans tous les sens, et encore, à ta première run, tu peux en débloquer qu'une certaine partie des lunes, c'est une fois que t'as fini le jeu, tu peux revenir dans les niveaux, casser une espèce de brique qui va remettre encore d'autres lunes de partout, et je pense que si t'as vraiment
vous
traversé...
Vous aimez Mario
Mais oui, c'est pour ça que je te disais que je pense que c'est effectivement la philosophie. Et oui, vraiment, t'es dans une abondance comme ça de lunes. Et la deuxième chose qui va vraiment donner ce côté sandbox, c'est donc l'ajout de Capi, qui est déjà apporte plein de petites nouveautés au mouvement, à la palette de mouvement de Mario. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'il est, enfin, on est à un niveau de plaisir de manipulation de Mario avec cette casquette qui que tu peux la lancer, tu restes appuyé, ensuite tu peux courir dessus, sauter, la relancer, ressauter dessus, et tu peux faire vraiment, en fait, là je me suis amusé hier dans New Donk City, là, le niveau de la ville, tu peux traverser les immeubles et tout comme ça, enfin, il y a un plaisir dans la manipulation de Mario qui est assez incroyable, je trouve encore une fois sur les frames qui te donnent l'indice que tu peux faire quelque chose, par exemple la fameuse roue, où tu sais, tu cours dans un sens et tu t'arrêtes, tu repars direct dans le sens, et après t'appuies sur saut, il va faire une roue, t'as un espèce de, tu sais, Mario se tourne d'un coup sur lui-même, t'as une petite fumée, et en fait c'est à ce moment là que tu dis ok, j'appuie pour faire ma roue, et je sais pas, il y a un feeling en fait qui est extrêmement plaisant à manipuler ce personnage, et ça je trouve qu'ils sont, enfin, on est au summum du plaisir de Mario,
ils ont vraiment aiguisé leur truc pendant tellement d'années qu'on a, voilà, tu vois,
c'est les
sensei,
tu vois, qui font leur truc comme ça, et en fait voilà, c'est le plus beau katana que je n'ai jamais fait.
Il y a cette idée là c'est vrai que c'est la philosophie très japonaise de la production de jeu, où ils vont garder leur senior et tous ces gens qui avaient de l'expérience, enfin c'est pas un secret, je veux dire, dans les crédits d'Odyssée, il y a des gens qui avaient bossé sur 64. Qu'il y ait autant d'écart, il y ait 20 ans d'écart entre ces deux jeux-là, c'est des gens qui ont une expérience, qui ont vraiment une connaissance et une compréhension de ce qu'ils font en tant que créateurs de jeux, qui est vraiment affinée par rapport à des gens qui débuteraient demain, tout simplement. C'est évidemment cette expérience-là, tu ne peux pas la remplacer. Et ça, c'est vraiment très japonais dans l'approche, hein, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, et ça se ressent vraiment dans Odyssée, parce qu'ils en ont mis tellement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que je disais, c'est que certes, il y a des tonnes de lunes, mais il y a également des tonnes de contenu. Puisque Capi, donc, il a cette capacité de créer tout un tas de nouveaux mouvements, mais il peut également se jeter sur des éléments du décor ou des ennemis et te donner instantanément un nouveau gameplay. Et là encore, je sais pas combien il y en a, mais il y en a des dizaines et des dizaines.
Je crois qu'il y en a une petite cinquantaine.
Il y en a, alors, il y en a, mince, alors de mémoire, c'est quelque chose comme une cinquantaine officiellement, mais
et
sur
si,
les 50,
voilà,
il y en a quand même
30,
bien.
C'est pas des ennemis, ouais, genre c'est un pylône,
c'est des objets
des trucs électriques.
Con, tu vois, voilà. Ce qui veut dire que t'as entre 20 et 30 vrais transformations.
C'est vraiment une diversité de gameplay qu'on n'avait pas encore dans Mario, même
parce
Galaxy.
Parce qu'il y avait des
proposait
costumes, des
choses
comme ça, mais là en fait chaque ennemi, c'est un nouveau, plus qu'un costume en fait, parce que tu ne contrôles même plus Mario. Enfin, t'as des ennemis qui se contrôlent pas du tout de la façon.
Ouais, tu changes de personnage,
Mario,
donc c'est
exactement,
totalement différent.
Exactement. Et je trouve déjà que sur chacun de ces ennemis, il y a un petit plaisir déjà de feeling. Hein, c'est agréable à jouer, et il y en a certains. Donc déjà l'intérêt vraiment de Capi, c'est de te donner justement des possibilités un peu sandbox, c'est un truc un peu systémique presque, parce que chaque monde va avoir sa thématique, ses propres ennemis, et du coup ses propres ennemis vont pouvoir te faire des choses spécifiques dans ce truc là. Là hier j'ai rejoué avec le niveau de Bowser à la fin, où t'as une espèce de petit pivert qui peut se planter et que tu inclines et hop il saute au dessus ou en dessous, et en fait il se plante dans des murs comme ça, et t'as plein de petits puzzles et de niveaux de plateforme qui sont avec ça, et c'est super plaisant à jouer rien que ce petit ennemi, et t'en as plusieurs tout au long du jeu. Il y a les petites méduses, il y a les chenilles du niveau perdu aussi, où il y a plein de défis super intéressants à faire avec. Et moi en fait vraiment, autant je pense on peut le dire, tu vois, l'avalanche de lune, c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé, j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur Game Next Door, mais j'ai vraiment voulu aller au bout du jeu pour voir toutes ces idées qu'ils avaient avec chacun des ennemis, parce que je trouve qu'à chaque fois, enfin jusqu'au bout, ils m'ont donné des bonnes idées, des trucs, ah tain, c'est trop cool ce petit ennemi, ça nous fait faire un truc différent, et je trouve que ça c'est, ils ont vraiment réussi leur coup, et encore une fois c'est de façon jusqu'au boutiste, où il y en a de partout quoi, enfin même 20-30 ennemis, c'est, enfin il y a 30 gameplay autres que celui de Mario dans le jeu, tu vois.
Voilà, qui se rajoute à toute cette palette de mouvements dont on a déjà parlé, et du coup t'as plein de façons différentes d'aborder le truc. Il y a vraiment ce côté effectivement de maîtriser tous ces mouvements là dont beaucoup sont optionnels, hein. T'as pas besoin de maîtriser Mario complètement pour le finir, même pour le faire à 100%, il y a certains mouvements que t'as pas du tout besoin de faire, et il y a certains mondes où En premier lieu, tu aurais tendance à prendre le contrôle de tel ennemi pour accéder à telle zone, et en fait, non, t'en as même pas besoin. Si tu contrôles bien Mario, tu peux y accéder. Donc, oui,
ouais, y a vraiment une marge de progression dans sa maîtrise de Mario et de ses mouvements. Sa palette, elle est tellement dense, elle est tellement complète par rapport à ce qu'on avait d'habitude que, enfin, de toute façon, vous tapez de quelques secondes dans YouTube, vous allez voir des gens qui font des figures absolument incroyables. Il y a vraiment un gap entre vous qui jouez à Mario et les gens qui savent y jouer et qui font des trucs complètement incroyables. Et ça, encore une fois, c'est ça où c'est vraiment très impressionnant dans la conception même du jeu, c'est qu'ils y ont pensé. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, quand ils ont pensé leur personnage, ils se sont dit, ben, il va pouvoir faire tout ça, donc on va créer nos niveaux pour que les gens qui veulent jouer de cette manière-là
vont pouvoir
le faire.
L'exploiter.
Et en même temps, les gens qui sont dans le métro, sur leur toilette, etc., ils vont quand même pouvoir récupérer leur petite lune et faire leur petit truc sans jamais avoir besoin de toucher à toute cette sphère-là de la connaissance de Mario. Et faire cohabiter les deux en même temps, c'est un
vrai
gros
défi.
Challenge.
Ouais,
hein,
c'est un vrai
vraiment.
Défi.
Et au final, voilà, on trouve que ça fonctionne pas trop dans la mesure où il y a aucune hiérarchisation dans les lunes. Donc quand tu sautes en l'air et que tu retombes sur
je l'ai fait littéralement hier. Il y avait donc le niveau, j'ai fait tout un parcours avec un niveau optionnel avec les pivers là où c'est peut-être ça m'a pris je sais pas 5-6 minutes tu vois pour aller au bout. Et juste avant j'ai plongé dans un lac et j'ai trouvé une lune tu vois.
Ouais.
Donc et c'est la même récompense à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de non hiérarchisation du challenge et des objectifs qui est, je pense, assez déroutant, peut-être pour des gens comme moi qui sont peut-être un peu procéduriers, tu vois, et qui aiment bien dire voilà, là j'ai fait une petite activité annexe, j'ai
une
petite.
C'est une légendaire.
Non, mais voilà, parce que quand tu bats des boss, parfois t'as triple lune, tu vois, et là tu dis bon, voilà, j'ai fait un gros truc, c'était important, mais en fait c'est nul, c'est juste un boss qui est pas bien difficile à battre. Mais par contre, tu vas faire un truc où tu vas te prendre la tête, tu vas avoir mal aux doigts parce que c'est hyper dur, et t'as juste une petite lune à la fin. Et en fait, faut arriver à se dire, ce qui est assez paradoxal, faut arriver à se détacher des lunes alors qu'il y en a. Il y en a plein et que c'est tout le temps ça qui doit te driver. Et je pense qu'il faut arriver à se mettre dans une espèce d'état d'esprit particulier auquel moi j'arrive pas à rester très longtemps. C'est-à-dire que je peux me dire ok ouais je m'en fous, mais très vite en fait je suis ramené à cette réalité. Je me dis ok, je regarde la liste des lunes, qu'est-ce que je peux encore faire, etc. Parce que moi je suis allé jusqu'à 300 lunes, donc c'est peut-être pas énorme hein, pour des gens qui ont passé, mais voilà, j'ai fini le jeu, j'en ai fait quelques autres après, mais voilà, tu vois, j'ai pas fait je suis pas allé trop loin. Et parce que le jeu, là, tu vois, même en relançant hier, bah, j'étais content, j'ai retrouvé deux, trois petites lunes, j'ai même vu des trucs que j'avais encore pas vu dans New Donk City, genre un espèce de petit cinéma où à l'intérieur, tu rentres dans un tuyau et puis tu fais le premier niveau 1-1 de Super Mario Bros. Et tu récupères une lune à la fin et tu fais « Ok, c'est
pourquoi
rigolo !»
Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, il y a ce côté hommage, florilège, etc., ils arrêtent pas, hein.
Il faut vraiment entrer dans le délire du 100%, en tout cas d'avoir cette, entre guillemets, rigueur, discipline, en tout cas de vouloir dépasser un petit peu ce que le jeu peut te donner à la base, de vouloir vraiment atteindre un petit peu plus que ce palier de base qui est de chercher des lunes dans les lacs et tout. Et c'est vrai que moi quand on me dit en fait quand tu termines le jeu on t'en rajoute encore plus, il y avait même des gens qui te disaient, et à juste titre hein, c'est quand on termine le jeu qui commence vraiment. Et c'est vrai que moi ces trucs ils me parlent pas du tout.
Puis même le truc c'est que tu dis que la lune dans le lac t'en as besoin aussi, c'est à dire que t'en as besoin aussi pour tu dois aller la chercher.
Oui, parce que
tu peux pas dire je skip ça parce que ça m'intéresse pas, je suis trop bon pour aller chercher des lunes dans les lacs. T'en as besoin pour pouvoir débloquer les vraiment niveaux du late game hein, l'autre phase de la lune, ces trucs là où là il y a vraiment des niveaux de l'enfer, permadev, tu recommences pas, c'est ardu pour tout le monde, tu vois. Mais t'as besoin de ça si tu veux débloquer ça. Maintenant, moi, ils me disent, il vous reste encore 200 lunes à débloquer pour le prochaine étape, tu vois. J'ai fait, ok, ça marche, tu vois, j'ai le temps.
Mais ça me fait penser à ce qu'on avait pu dire avec Devil May Cry, par exemple, notamment, donc moi, le 5, qui est le seul que j'ai fait. Bah, le jeu de base, il est assez facile et tu débloques en fait beaucoup de mouvements à mesure que tu joues et tu apprends à jouer beaucoup de persos. Et le jeu, même le. Alors, j'ai oublié son nom, mais le mec historique derrière Devil May Cry, il dit, limite, bah en fait c'est quand tu refais le jeu que c'est nous, c'est là qu'on considère que c'est le vrai jeu.
Itsuno il me semble,
je sais plus du tout, et je suis assez mauvais avec les noms, j'ai oublié, mais il te dit voilà, ce mode là que tu débloques en ayant terminé le jeu, bah c'est un peu ce qu'on considère le vrai jeu, parce que c'est bon, maintenant t'as toute ta palette de mouvements qui est débloquée, tu vas pouvoir t'éclater, sauf que bah, j'ai pas envie de refaire les mêmes niveaux en fait. Moi j'ai pas envie de me retaper des trucs, et c'est vrai que c'est pas ma philosophie de jeu, c'est vrai que moi ça me gave.
Après c'est vrai que la nature ouverte fait que tu ne te retapes pas vraiment les mêmes niveaux, t'es dans un autre truc,
oui,
et puis surtout tu vas avoir, quand t'as fait tout le jeu, t'as un regard un peu différent en disant attends, je vais chercher l'ennemi, si cet ennemi il est là je peux peut-être l'emmener ici et ça va me servir pour faire un truc. Donc tu regardes en fait, t'as une autre lecture du jeu qui je pense peut être assez cool. Mais là encore une fois tu me dis faut que tu fasses ça pendant 200 lunes, je fais voilà.
Ou t'as cette idée que au moins un bon tiers des lunes, en fait moi ça m'intéresse pas de les choper, et du coup je vais passer vraiment peut-être la moitié du jeu à faire des trucs qui m'intéressent pas plus que ça.
C'est
en fait
ça,
vraiment si à la fin je fais un bilan je dis Mais en fait, cette lune n'était pas très intéressante à choper. Et c'est vrai que bon, j'ai le sentiment de perdre mon temps. Et j'ai arrêté aussi à New Donk City, moi, une fois.
Ouais, j'ai arrêté à ce moment-là aussi. En fait, au bout d'un moment, quand tu arrives et que tu as l'impression que l'Odyssée, donc son chapeau vaisseau, là, il faut donc le remplir avec de l'énergie qui sont des lunes. Et à un moment, il va te dire d'un coup, bon, bah, il t'en faut 30 ou 40 de plus. Et donc, tu te dis juste, ben, je vais juste aller en chercher. Ouais. Je vais juste faire ça pour pouvoir aller au nouveau niveau. Et quand je vais aller là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais chercher d'autres lunes pour aller débloquer le prochain niveau. Et donc, moi, j'ai quand même besoin, dans un jeu vidéo, d'avoir une espèce de fil rouge, d'avoir pas simplement un sens de la progression, mais un sens un peu de l'aventure et d'aller d'un début
du rythme aussi, parce que là, c'est comme c'est tout toi qui gères.
Et comme je n'y ai pas joué en portable, hein, parce que la Switch, c'est une console à laquelle je joue principalement chez moi, tu vois, quand je vais la prendre en nomade, je vais plutôt jouer à... En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je comprends la philosophie de les jouer en portable, mais je vais plutôt jouer à Dead Cell, je vais plutôt jouer à Isaac ou des petits jeux comme ça. Mais je vais pas me dire, tiens, je vais me lancer dans Mario, alors que, effectivement, en l'ayant rejoué là, il y a quelques semaines, c'est vrai que le game feel, les sensations de jeu, ils sont pas intouchables, parce qu'il y a d'autres studios qui arrivent très bien, mais ils sont tellement forts. C'est vrai que quand tu commences à te dire, ah oui, alors je peux faire ça, en plus il y a la notice, tu sais, le manuel, il est intégré dans le jeu, et tu vois les niveaux, tu vois à quoi ça va ressembler, il t'explique tous les petits détails, toutes les petites subtilités, tu vois bien tout ce que tu peux faire, mais je me dis juste, bon ben, c'est une sandbox, c'est-à-dire que moi, gamin, tu me mettais avec une boîte de Lego, j'étais perdu, tu vois. Par contre, tu me disais, construis ça, je le faisais, tu vois. Et je pense qu'adulte, je suis toujours un peu dans cette même truc. Si tu me donnes un objectif, je vais y aller parce que je trouve ça intéressant d'y aller et j'ai envie de voir ce qui se passe. Mais quand tu me dis juste amuse-toi, c'est un peu compliqué. Ouais, tu vois, c'est une autre approche du jeu. C'est très moderne, hein, dans sa philosophie, puisque bah, depuis un certain Minecraft, c'est quelque chose qui s'est répandu dans tout un tas de jeux. Le côté sandbox, faites votre propre aventure, donnez-vous votre propre objectif.
De toute façon, avec la Switch, Nintendo, ils ont regardé ailleurs. Hein,
ouais, c'est sûr.
Zelda, on voit qu'ils sont allés regarder Skyrim, Red Dead, Witcher. Et là, pour Mario, c'est sûr que Minecraft est
passé dedans. C'est obligé.
La philosophie qu'on a de faire des jeux comme ça, un peu plus ouverts, un peu plus libres, avec des petites boucles, des trucs comme ça. Oui, c'est.
Même si quand même chaque lune est pensée, tu vois, par Nintendo, tu vois.
Ah oui, c'est pas du tout.
T'es pas responsable de tout l'amusement, tu vois. Il y a quand même ce côté, ils ont vraiment peaufiné des petits moments, tout le level design aussi, vraiment.
Bah, bien sûr.
Évidemment, au poil de cul. Mais c'est vraiment. Donc c'est un mix un petit peu entre les deux. C'est toi qui vas devoir chercher ou t'amuser, sauf que bah, y en a qui t'amusent pas. Donc,
un côté collectaton, en fait, qui est très libre, qui peut te. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, je pense que c'est le nombre. Tu sais, c'est 999.
Ouais, c'est
déjà
c'est
150
vraiment,
c'est Pokémon, c'est beaucoup.
Ouais.
Mais 999, il y a un côté un peu aberrant en fait à chercher ce nombre, et je pense pour beaucoup de gens ça fait un chiffre qui est un peu trop gros pour arriver à se projeter.
Il y a un côté un peu abstrait de la fin du truc où tu te dis mais alors quand je l'ai fini, en plus le jeu tu dis tu l'as pas vraiment fini, donc ça c'est un petit anticlimax, tu vois, parce que tu dis bah j'ai quand même fait tout ça, ça servait à rien.
Surtout
non,
tu débloques le royaume champignon après à la fin, un gros clin d'œil, tu redébloques des trucs, donc puis à ce moment là d'ailleurs tu vas au royaume champignon et tu vois Toadette qui te donne toutes les lunes pendant les achievements, et voilà, moi j'ai posé ma console et j'ai fait et je récupérais, je sais pas, j'ai récupéré peut-être 117 lunes, tu vois, alors
ça
et tu vois, t'es ok, ça marche,
non,
merci.
Mais ne serait-ce que le sentiment d'aller au vaisseau et te dire bah je suis prêt à partir, je considère avoir fait le tour, et on te dit bah il te manque 20 lunes, bah non, en fait c'est pas
c'est un peu dommage. Par contre, c'est vrai que si tu y joues dans cette optique de ben j'aime bien le personnage de Mario, j'adhère à cette proposition de gameplay et à ce personnage là et je peux y jouer 5-10 minutes par-ci, au final c'est vrai que sur une très longue session, tu vois, où tu vas faire plein de petites sessions de 10-20-30 minutes, peut-être qu'au bout de 6 mois sans t'en rendre compte t'auras 350 lunes, parce que tu y joues comme ça, tu
peux faire un jeu un peu pop. Bah de toute façon voilà, c'est vraiment, je pense, le jeu buffet à volonté de Mario, hein. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait. Vraiment, il y a cette philosophie de buffet à volonté, parce que avant que tu aies mangé les 999, t'as le temps de le faire. Mais il y avait quelqu'un sur le Discord qui nous disait pas Game Next Door, mais fin du game, ils aiment pas trop ces jeux-là, tu vois. Mario Odyssey, ils l'ont pas trop aimé. Mais moi, c'est pas un jeu qui est cher à mon cœur, mais par contre, je suis tellement admiratif, en fait, de cette créativité, de cette maîtrise sur le level design, de ce jusqu'au boutisme d'avoir mis tous ses ennemis. Et à chaque fois, je trouve que ça marche quand même pas mal,
Vois. Non, mais.
Je trouve que c'est un jeu. En fait, au moment où je l'ai fait, j'étais plus dans l'expérience, bon, vas-y, faut que je finisse, faut que je vois un petit peu tout ce qu'il a à me proposer, parce que je suis dans ma façon de travailler sur le jeu vidéo qui est un peu plus pensé efficacement. Mais c'est vrai que si tu y vas sans pression, si tu y vas en détente, en disant bah, j'ai juste envie de m'amuser à Mario, bah, je pense que tu prends vraiment ton pied avec ce jeu, parce qu'il y a tellement à faire. Et
puis on l'a pas dit, mais tu débloques aussi les centaines de millions de costumes. Si t'es amateur de l'univers et du lore de Mario, enfin il y a des tonnes de trucs, tu vois. Quand tu débloques le costume Mario 64 avec tes gros polygones, etc., enfin pour quelqu'un qui a connu le jeu à l'époque, il joue évidemment sur la fibre de nostalgie. Un truc truc moi que je trouve assez impressionnant avec ce Odyssée, c'est leur lucidité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de qui ils sont, mais ils se la racontent pas trop. C'est, ils sont pas en mode mégalomane où Mario, tu vois, ils auraient pu imaginer qu'il y a une statue de lui géante en haut d'un truc, il met son nom sur des trucs et il devient président des États-Unis, tu vois, ils sont pas partis dans ce trip-là. Donc ils sont quand même lucides sur leur leur capacité à toucher le cœur des gens qui vont jouer à leur jeu sans en faire trop. Ça, moi, je trouve ça vraiment admiratif. Et comme, enfin, je suis vraiment admiratif de ça, pardon. Et comme on le disait, c'est on l'a répété régulièrement là ces derniers temps sur le Discord. Le but de l'émission, c'est pas juste de dire on aime pas. C'est en fait, on arrive à se on essaye au maximum de se détacher de ça, parce que même si j'ai pas spécialement aimé Mario Odyssey, en y jouant, en le regardant, en essayant de le décortiquer, j'ai vu un tas de trucs que j'ai trouvé absolument bluffant.
Jeu qui est assez fascinant, et en fait,
tu vois, c'est intéressant juste de le regarder pour ce qu'il est,
unique
quoi.
En fait, ouais. Il a une proposition qui est très unique. Enfin, faire de la plateforme déjà comme le fait Mario en 3D, il y a plus grand monde qui peut se permettre de faire ça, en tout cas sur des jeux très populaires.
Tu vois, il y a un jeu qui s'appelle Hat in Time, ouais. Qui était passé sur Kickstarter, ouais. Qui a mis beaucoup de temps, qui voulait justement un peu taper dans le délire Mario, Sunshine, etc. Ouais. Et c'est un des rares représentants, et c'est vu comme une espèce d'approche rétro. Et ouais. Eux, ils assument ça, et ils te disent non, mais on peut le faire, c'est encore
pertinent.
Et surtout
qu'ils arrivent, là encore une fois, tu vois, c'est en reprenant toute la rétrospective sur ces 3D, moi je suis impressionné par leur capacité, alors même s'ils l'ont pas fait, tu vois, avec 3D World et Sunshine, c'était un peu timide, mais quand même, chaque épisode a une envie de dire on va faire quelque chose. Et je repense même à ce qu'on disait sur les consoles, tu vois, bah là aussi, Mario Odyssey, avec les Joy-Con, tu peux faire des trucs avec Capi, tu peux le lancer, le faire pivoter un peu à côté.
J'aime bien le motion gaming, et du coup, vraiment, avoir les deux Joy-Con, et c'est vrai, lancer Capi.
Révélation là, j'étais pas prêt.
Tu sais que j'y pensais hier soir, j'ai dit, et Maxime, c'est le mec, il est toujours, tu vois, les jeux, ouais, c'est pas trop mal, et tout, t'es toujours très lancé. J'aime le motion gaming. Ouais, c'est fantastique.
C'est incroyable. Je lance Capi, je fais un petit virage à 90 degrés avec la droite, et je trouve ça super kiffant, c'est vraiment hyper grave. Et là, oui, personne ne peut faire ça, en fait.
Et en fait, je trouve que c'est finalement les Mario, chaque génération, j'ai l'impression que représente la philosophie de Nintendo à un moment donné, et ce qu'ils ont envie un peu d'apporter au monde, tu vois. C'est-à-dire que 64, c'était, voilà, on veut montrer ce qu'on va faire avec la 3D, c'est on va sauter dans l'avenir. Et Odyssey, aujourd'hui, c'est, bah, on veut faire coexister tous les gens qui aiment Mario, en fait. C'est-à-dire déjà le faire découvrir à des nouvelles personnes. Encore une fois, c'est des jeux qui sont designés pour plaire aussi aux enfants, hein. Forcément, il y a cet univers extrêmement coloré. Le jeu est hyper accessible, hein. Enfin, il y a même un mode assistant d'ailleurs.
C'était un des premiers jeux où on parlait
possible,
vraiment de mode invincible entre
ouais, mode assisté. Bah, d'ailleurs, mon gosse a fait Odyssey avec le mode assisté.
Ça a influencé Céleste de mémoire.
Oui, tout à fait. Confirmé aux gens qui ont fait Céleste que c'était une bonne idée de faire ça. Et en même temps, faire coexister voilà, toute cette richesse du gameplay de Mario et à la fois, comme tu le disais, Benoît, en célébrant tout ce qu'est Mario, cette image. Enfin, je pense que la chanson au milieu du jeu avec New Donk City, là où on alterne les phases. Alors, au début, il y a tout ce combat où tu es des tanks et tu dois tirer sur des trucs. Et après, tu fais une sélection de plateforme en 3D. Après, tu repasses en 2D. Et il y a la meuf qui chante machin Odyssey. Il y a un côté extrêmement. Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est Nintendo. Ils sont heureux d'avoir créé ce truc et ils savent encore le faire perdurer, le faire exister de manière différente.
Ouais,
voilà.
Il y a quelque chose, tu vois, de vraiment abouti dans ce. Ouais. Cette proposition, et si jamais, alors évidemment ce sera pas le cas, hein, vous inquiétez pas, mais si jamais il nous disait ça a été le dernier jeu de Mario, ça y est il prend sa retraite, ça aurait pu, parce que c'est vraiment un jeu qui lui rend hommage et qui montre tout ce qu'il a réussi à apporter aux jeux vidéo avec la 3D, les costumes, la musique, l'univers, enfin vraiment tout ce qu'il a apporté, c'est voilà la célébration de ça, tu sais, c'est un peu comme la reine d'Angleterre quand on fête son anniversaire et que tout le monde lui fait coucou, bah Mario il a fait ça, tu vois, il a eu son petit jubilé,
ça,
il a dit ça y est, ça fait 35 ans que je suis là, c'est moi le patron dans le jeu vidéo et regardez ce que je peux encore faire aujourd'hui et je maîtrise encore tout le monde.
Avec Miyamoto, tu sais, en spectre dans les nuages qui observe.
Avec ces petits trucs qui dirigent tout le monde, voilà, comme ça. Et nous, par-dessus, fin du game
au-dessus de Miyamoto, qui tapons sur l'épaule. De... c'est le même là dans l'espace, always
ah, oui. Ah, oui,
wait,
oui,
it was fin du game, always has been.
J'imaginais plus en Mufasa.
Ouais, ou Mufasa, voilà, ça marche, ça marche.
C'est ton
aussi.
Côté poète, ton côté sensible, il aime le motion gaming, le roi lion, voilà. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura un Odyssey 2? Parce que là, encore une fois, on revient dans la situation où la Switch est vraiment en succès de folie. Hein. Je pense qu'elle va, elle aussi, probablement aller chercher ses 60 millions de ventes s'il continue à bombarder les jeux. Déjà, rien qu'Animal Crossing a dû bien faire son taf pour en vendre. Et c'est vrai que là, on pourrait imaginer Odyssey à une formule qui pourrait être encore, je pense,
un nouveau jeu, mais au moins, tu vois, des contenus bonus qu'ils vont ajouter. Moi, je m'attends toujours à avoir un Nintendo Direct où il nous dit on en rajoute 600 lunes,
oui,
on en rajoute 700 lunes. C'est cadeau, c'est pour
999,
nous.
9999.
Vous voulez du Mario? On y va.
Ils ont montré en tout cas que c'était possible de faire des mondes avec des DA complètement différents, parce que ça,
c'est
vrai qu'on l'a
c'est
pas.
C'est vrai que ça, c'est un truc qu'ils ont. Qui a pas plu d'ailleurs à tout le monde.
Parce qu'il y a des niveaux que je trouve assez moches.
Mais en même temps, moi, ce que je trouve, c'est que des DA tellement différentes, ça donne une espèce de cohérence dans la différence. C'est une odyssée, t'as l'impression limite que tu pourrais voyager dans d'autres jeux, tu vois, tellement c'est différent.
Oui, c'est vraiment ça. D'ailleurs, le petit bouquin sort d'édition, en first print, il est en format carte postale, un petit peu, tu vois, derrière. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté un petit peu le voyage. Ce qui a toujours été un peu Mario aussi, quand même, ce côté vraiment de passer de monde en monde. On le disait, des Mario Bros 3, t'as cette volonté de faire des mondes un peu thématiques. Mmh. Donc oui, tu passes d'un environnement à l'autre. Là, ils ont concrétisé avec Odyssey que tu pouvais vraiment aller au bout du délire et même changer complètement l'ADA. Et du coup, ce serait pas aberrant qu'ils rajoutent des mondes, que ce soit en extension ou vraiment avec un Odyssey 2, s'ils ont encore d'autres idées. Oui, ce serait pas assez étonnant.
Ouais, parce que la feature de Capi, je la trouve tellement bien en fait. En
ouais,
je trouve que ça marche bien en 3D.
Infini, hein, ouais, tu peux imaginer tout ce que tu veux.
Il faut juste des idées derrière pour les faire, mais oui, ils en ont trouvé 999, ça veut dire qu'on peut en trouver d'autres, donc c'est jouable. Mais voilà, c'est vrai que Mario, il a une place particulière, c'est vraiment une icône, tu vois, et c'est pour ça je pense qu'on voulait revenir dessus. Voilà, on termine la saison avec Mario. Je pense pas qu'on reparlera de Mario avant un bon moment dans l'émission. C'est pas pour rien que, voilà, on a voulu faire une rétrospective. On se sentait pas de faire de toute façon l'histoire de tous les Mario, puisque bon, globalement, c'est toujours Mario qui sauve la princesse.
Et puis ça fait partie aujourd'hui maintenant des choses qui sont connues, hein. Tu vois, je rigolais en disant que c'est les histoires racontées autour du feu, mais parmi les gens qui nous écoutent et qui connaissent un peu l'univers du jeu vidéo, tu vois, assez rapidement, ça fait partie des légendes dont on a entendu parler. Donc c'est vrai que le storytelling autour de la création de Mario, évidemment, ils en ont fait plusieurs jeux, puisqu'il y a eu Mario Maker 1 et 2 qui ont ramené tout ça. En fait, ça fait partie des choses qu'on connaît, tu vois. Ça fait vraiment partie, un jour, où quand on racontera l'histoire avec un grand H du jeu vidéo, il y aura le grand chapitre Mario et tout le monde le connaîtra presque d'avance, tu vois. Je veux dire, il y a des questions sur Mario dans le Trivial Pursuit, dans les jeux à la télé. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une icône culturelle, pop culture, qui a dépassé depuis tellement longtemps le truc du jeu vidéo que revenir simplement pour vous dire, oui, alors il dessinait des petits carrés et tout, vous l'avez déjà entendu mille fois ailleurs, il n'y a pas besoin de ça.
Non, et puis, enfin, moi je trouve que c'est, encore une fois, c'est un truc très essentiel du jeu vidéo, tu vois, c'est de faire du game feel qui soit extrêmement plaisant. Enfin, tu sais, en fait, ils font quelque chose encore d'unique. C'est ça qui est surprenant. Tu vois, personne d'autre fait du
Nintendo.
Du non. Nintendo déjà et d'une. Et voilà, il y a que Mario qui sait faire du Mario et qui sait le faire avec une ambition aussi folle que le fait Odyssey, quoi. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, je me posais la question. Je me disais, voilà, est-ce que faire du Mario encore aujourd'hui, c'est pertinent, tu vois? Est-ce que c'est pas un truc qui appartient au passé? Et je pense que Nintendo, même si nous, le jeu, on n'a pas trop adhéré plus que ça. Moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie. Il nous donne tort, tu vois, si on se demande est-ce que c'est encore pertinent. Oui, carrément, c'est encore carrément pertinent.
Ils ont toujours des idées, on
de
peut toujours exploiter des trucs, c'est bien ça. Sûr. Mais de toute façon, ils ont cette réserve de créativité où ils nous surprennent, parce que tu veux dire, on peut reparler de Zelda Breath of the Wild, mais ils arrivent d'un coup et hop, ils changent un peu la formule. Mario Odyssey, là, il y a ce côté florilège. Ben, je m'attends à ce que le prochain Mario soit une espèce de tu vois, il retourne la table complètement encore, et ils changent encore complètement d'idée, parce que là, ils ont été au bout de leur idée. Ben, ils ont encore probablement plein d'autres qui leur traînent dans les cartons et ils vont voir dans quelle direction ils vont aller.
Très bien, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce dernier épisode de la saison, un épisode un peu spécial. Alors, on s'est amusé, on s'échauffe un peu pour voir si on pourra faire des sagas, même si on se rend compte que c'est pas si évident
ça
à faire.
Beaucoup de préparation.
Oui, beaucoup de préparation, et puis surtout, encore une fois, Mario, c'est un truc qui est particulier parce que c'est une série qui se concentre beaucoup sur le gameplay, beaucoup d'histoire, c'est pas exactement pareil, et on se demandait si est-ce que des sagas qui étaient peut-être plus ambitieuses en termes de narration et tout, c'était une bonne idée. On se pose encore la question si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc on verra
dites-nous ce que vous en avez pensé, hein. Si vous êtes sur le Discord, dites-le nous. Vous pouvez toujours mettre des petites notes sur les iTunes, Spotify, machin, ça on les lit aussi. Et on est également sur Twitter, on l'avait dit, @fin du game JV. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est un épisode qui nous a demandé pas mal de préparation. Ça fait des mois qu'on savait qu'on allait faire ça, et qu'on avait commencé à réfléchir à la structure. On s'est arrêté sur celle-ci qui nous paraît pertinente. Voilà. Faites-nous des retours.
Et puis même moi, j'ai eu l'impression d'apprendre des choses en la faisant, parce que je me suis dit, ah oui, j'avais pas cette perspective-là sur les Mario 3D, ce que chacun ils ont apporté et comment Odyssey il avait été pensé par rapport à sa console et tout. Enfin, il y a plein de choses, que c'est ça qui est cool aussi, c'est ça qui est plaisant de faire cette émission, c'est qu'on découvre à chaque fois des choses sur les jeux dont on parle. Et puis de toute façon, voilà, on vous l'a dit, la liste jusqu'à fin 2020, elle est prête. On va revenir dans des trucs un peu, les gros jeux, des trucs un peu plus classiques comme on a l'habitude de faire. On va se faire plaisir aussi. Et puis voilà, soutenez-nous sur Patreon, allez sur le site de Third si vous voulez en savoir plus plus sur Mario. Voilà, aller aux épisodes 2D. Voilà, le livre est rempli de petites anecdotes super intéressantes qu'on n'a pas pu toutes placer. Il y a eu des citations dans cet épisode. C'était l'épisode citation. Ouais,
vous n'avez pas eu la citation sur le potager de Miyamoto. Mais
et Dieu sait que Maxime voulait la placer. Ouais, hein.
Ouais, mais peut-être qu'il y aura un épisode 2 de ce truc, un Lost Level de fin du game. On ne sait pas.
On ne sait pas. On verra ça. On vous donne rendez-vous. Quand c'est que ça va démarrer la
début saison septembre.
Début septembre. Entre alors, peut-être
mi,
pas.
Plus mi que début, mais voilà.
Allez, autour du 10-12, je crois que c'est le 11 septembre le d'ailleurs, 11, je crois que le vendredi, a priori, voilà, c'est ce qu'on a prévu, on verra. Vous si savez maintenant, arrive. 11 septembre, Nier Automata, début de la saison 3 de fin du game. Envoyez, mettez des pièces dans le Patreon, mettez les piécettes de Mario, nous il nous en faut un
payé, j'ai encore un bouquin à lire.
Bah oui, moi je l'ai déjà lu.
Oui, c'est vrai,
ah ouais, cette fois-là, ouais. On sent la pression sur, bah, sur
Nier Automata. C'est un gros, ça va être un gros morceau encore une fois.
Très bien, on vous souhaite de passer une belle fin d'été en espérant que le Covid ne repasse pas le petit bout de son nez dès que le froid arrive. Et puis on se retrouve en septembre pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.